tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10, lien et code en description. Retour au podcast.
Bonjour à tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de 1000% podcast. On a la chance, l'honneur, comment on peut dire, Pierrot ?
L'honneur, hein ?
L'honneur de recevoir Monsieur Vincent Paqueton, comment allez-vous ?
Merci pour l'invitation.
Ben, ça va être un podcast intéressant, on a déjà fait un podcast sur moi, on a également fait sur Pierre. On essaye de vous transmettre un petit peu notre motivation, pourquoi on a essayé de construire ce podcast et aussi de partager un peu plus nos, entre guillemets, compétences. Donc là, aujourd'hui, on va parler du mode de vie, de ton expérience aussi sur être en bonne santé, longtemps, essayer de vivre pleinement et le plus longtemps possible, garder ses capacités fonctionnelles. Donc, on va d'abord te laisser un petit peu te présenter. C'est vrai que nous, on ne se présente jamais dans 1000%. Donc, je pense que c'est une bonne occasion aussi de te laisser t'introduire et te présenter pour nos auditeurs un peu plus en détail. Si tu as des petits secrets, vas-y, n'hésite pas, hein, dévoile.
Vincent, l'explorateur.
Bah, ça me plaît bien, ouais. C'est particulier de me présenter face à vous. Vous me connaissez très, très bien. Donc déjà, 1000%, c'est un projet d'amis. Et donc, mon exploration de la santé, elle est liée au projet 1000%. Et c'est un projet qui nous lie et j'espère qu'il nous amènera très, très loin. Et donc, voilà, je voulais d'abord me présenter à travers vous, les gars. Donc, moi, c'est Vincent Paqueton. Donc, je suis kiné du sport, préparateur physique, fraîchement instructeur Wim Hof. Donc, une méthode qui allie la respiration, l'intention mentale et l'exposition au bain froid. Et aussi, dernièrement, je suis devenu micronutritionniste. Et donc, tout ce changement, cette transformation de qui je suis personnellement ou professionnellement, bah, ça a été accompagné aussi par le projet 1000%. Et donc, voilà, j'ai un amour de la vie et de la santé liée au mode de vie qui pour moi, est exceptionnel et sûrement la santé du futur.
T'as quand même oublié que t'étais kiné, préparateur physique, il y avait d'autres choses aussi, je crois, non ?
Ouais, je l'ai dit.
Ah, tu l'as dit, excuse-moi, j'ai pas entendu. Ah, au début, ok.
J'ai dit au début. J'ai pas entendu. Mais voilà, en termes d'identité de thérapeute, c'est vrai que je suis en transformation. Donc, j'ai aussi l'envie d'être plus qu'un kiné, d'accompagner les gens dans leur santé. Et je pense que, voilà, la règle que je suis, c'est d'une, on ne comprendra jamais rien parce que je suis passionné par le vivant, par la vie. Et plus j'apprends, plus avec vous, on est des experts, plus on voit que notre santé, en fait, bah, c'est juste quelque chose de magique. On utilise un corps qui est exceptionnel. On est tous les trois en vie, les gars, et c'est un truc de fou. Et donc ça, c'est la première règle. C'est déjà, on comprendra jamais ce qui est le vivant. Et la deuxième règle, c'est que c'est l'ultra-personnalisation. Je pense qu'on a tous notre propre santé. Et c'est l'exploration de sa propre santé qui, pour moi, est la vérité. Ma santé, la tienne, Alexandre, ou la tienne, Pierre, on a des paramètres qui sont différents. Et donc, ce mode de vie nous permet de redevenir maître de notre santé. Et c'est le chemin qui est important. C'est l'exploration, petit à petit, qui nous amène à augmenter notre potentiel de santé.
Je pense qu'il faut accumuler des clés, accumuler des connaissances, et puis après aussi arriver à les mettre en place. Mais est-ce qu'il ne faut pas se faire guider, finalement, pour arriver à mettre toutes ces choses en place et voir quelles sont les priorités ? Parce qu'on verra, tu vas nous parler de beaucoup de concepts, et moi, j'ai peur de me perdre. Donc, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil là-dedans ?
T'inquiète pas, je vais te garder sur le chemin. Mais en vrai, ce que tu dis, c'est très important et c'est vraiment très moteur chez moi. Donc là, j'accompagne des gens dans la santé du mode de vie et aussi dans les bilans micronutritionnels et fonctionnels. Et ce que je veux, c'est cette ultra-personnalisation, elle passe que dans un sens. Ça va être déjà l'augmentation de notre connaissance. Donc déjà, écouter 1000%, passer du temps à écouter les experts qu'on reçoit, c'est vraiment une aventure exceptionnelle pour nous parce que je le dis souvent, on est dans un réacteur à connaissances en fait. Et nous, en tant que personne ou en tant que professionnel, bah, c'est une explosion. Et donc, à partir de cette connaissance, on va pouvoir enrichir une prise de conscience. Et cette prise de conscience de notre santé, de notre mode de vie, elle va nous permettre, en fait, d'adhérer à ce qu'on va mettre dans notre mode de vie, les habitudes, les erreurs, les succès. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je pense qu'il y a une cohérence, c'est la connaissance, la prise de conscience et puis l'adhésion aux habitudes qu'on met dans notre mode de vie.
Et qu'est-ce qui t'a amené justement à cette envie d'aller explorer ta santé? On en a parlé en off, quand on t'a demandé justement si on pouvait parler de ce sujet-là, parce que tu as eu aussi une situation particulière quand tu étais plus jeune. Est-ce que ça t'a encouragé à te rendre compte de la chance qu'on avait justement d'être en vie?
Ouais, bah c'est vraiment moteur. Donc moi, j'ai eu le cancer de la thyroïde à l'âge de 19 ans et ça a changé ma vie en fait. Et quand je prends du recul, cette maladie a été terrible sur le moment, mais en fait, ça a été un point de bascule de ma vie qui a fait que ben, je suis la personne que je suis actuellement, qu'on a la relation qu'on a en ce moment. Ben voilà, ça fait partie de ma vie. Et souvent, je dis les douleurs, les maladies, c'est souvent négatif, c'est des expériences qui sont difficiles, mais c'est aussi l'opportunité d'avancer, d'évoluer, d'être une nouvelle personne. Et je pense que moi, ce cancer, il m'a complètement changé, en fait. J'étais quelqu'un qui était égocentré, sûr de soi, ultra confiant, qui parfois était, voire méchant, tu vois. J'ai été méchant parfois dans ma vie. Et je pense que ce moment-là, j'en ai profité pour devenir une autre personne plus altruiste, plus curieuse et plus ouverte sur la vie, quoi.
Et là, on parle de longévité, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Des fois, on imagine des gens qui veulent vivre jusqu'à 120, 130 ans. Je sais même pas si c'est possible. Mais toi, ça serait quoi ta définition, justement, de cette longévité?
Ouais, c'est la mauvaise connotation. Moi, la longévité, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 140 ans. Vu mon histoire, en fait, j'ai un amour de la vie qui est très particulier. Donc, je vois cette longévité comme le mode de vie qui me permet de profiter de la vie. En fait, c'est comment je peux créer un environnement sain pour ma santé et d'être à mon plein potentiel physique, cognitif ou émotionnel maintenant. Et donc, pour moi, la longévité, c'est toutes les habitudes qui vont me permettre d'être dans une meilleure santé maintenant et qui va m'enrichir, qui va me permettre d'aller loin dans cette vie en bonne santé.
Tu veux dire que c'est pas une quête d'ego d'aller chercher les 150 ans, c'est pas le projet de l'immortalité, non, comme certains essayent de promouvoir.
Il y en a, et après, fine en fait, si eux ils ont envie d'aller chercher les 150 ans et que c'est leur délire, en fait s'ils sont bien avec ça, c'est super. Moi mon objectif c'est d'être tous les jours capable de profiter de la vie parce que c'est un cadeau, et j'ai envie d'être bien dans mon corps, bien dans ma tête, et j'ai envie d'amener les gens autour de moi aussi que j'accompagne ou les gens qui m'entourent. J'ai envie vraiment de crier de partout qu'on est capable, à travers notre mode de vie, de redevenir maître de notre santé, en tout cas de s'explorer personnellement et d'essayer d'enrichir notre santé.
Et justement, donc on est tous kinés de formation, on a fait nos études ensemble à Montpellier.
On s'est régalé. Hein.
Ouais, c'était sympa. Qu'est-ce qui t'a amené à dévier de cette trajectoire-là, de t'intéresser justement à ça? Tu parles de ta maladie, mais est-ce qu'il y a eu d'autres éléments aussi qui t'ont poussé? Est-ce qu'à un moment, ça a été, un besoin naturel? Comment tu l'as ressenti? Comment tu pourrais expliquer ce cheminement?
Ouais, et en fait, même en kiné, tu vois, j'ai dû apprendre, je pense, 10 concepts différents et j'ai toujours eu l'envie d'apprendre, tu vois. Je pense qu'une de mes zones de génie, c'est peut-être que je suis curieux, tu vois. Je suis très curieux, j'ai envie d'apprendre. Et donc, en fait, à un moment, la position de kiné, j'ai eu l'impression d'arriver toujours un peu tard, tu vois, de soigner des gens, de calmer des douleurs ou de soigner des blessures. Et j'avais vraiment l'envie de soigner les gens, mais avant qu'ils deviennent malades, tu vois. Et j'avais l'impression qu'on était, en fait, un peu des professionnels de la maladie ou de la blessure. Et donc là, dernièrement, je suis devenu micronutritionniste et je suis très content de ça parce que j'ai l'impression de, pour une fois, me tourner vers la santé, m'occuper que de la santé de la personne, et les symptômes sont juste un contexte à prendre en compte, un constat qu'on peut mettre en place. Mais je vais pas du tout me focaliser s'il y a des troubles digestifs, des troubles de la peau ou des dépressions. Bien sûr, je vais prendre en compte, mais je vais tout faire pour augmenter la santé, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment très moteur sur ce qui m'arrive en ce moment.
Justement, après, on donnera des conseils. On parlera justement du bilan que tu conseilles aux gens de faire, un questionnaire où justement tu essayes d'évaluer différents piliers, différentes choses et pistes à on va dire tester, explorer. S'analyser, explorer exactement, que ce soit le sommeil, la nutrition, l'activité physique, on en parlera dans une seconde partie. D'ailleurs, on mettra les chapitres, donc vous pourrez avancer s'il y a des parties qui vous intéressent plus que d'autres. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes encore là, le pouce.
Envoyez les 5 étoiles. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire Wim Hof ? Parce que c'est vrai que ça a peut-être recommencé aussi. Enfin, nous, on connaît nos histoires vu qu'on se connaît, mais les gens ne se savent pas. Qu'est-ce qui t'a amené justement à aller vers cette méthode Wim Hof ? Pourquoi ? Raconte-nous, en plus t'es un sudiste de base, nous on n'a pas trop l'eau froide ici, donc comment t'as... qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais, en fait on est tous les trois du sud, donc nous c'est le soleil, hein, et en fait ça a commencé à Paris en fait. À Paris, tu sais, j'étais dans une vie très intense, je bossais avec Nicolas Zenoun qu'on salue, et on avait une vie où on bossait de 8h à 20h. Et déjà, j'ai eu cette prise de conscience sur, en fait, je voyais très peu ma femme, Camille. Je prenais très peu soin de moi, très peu de sport. Et en fait, je me suis embarqué dans ça. Et il y a un patient qui m'a amené un livre, le livre de Peter Attia, Dr. Peter Attia, sur la longévité. Et ça m'a ouvert l'esprit sur la force du mode de vie, tu vois. Et donc, avec Camille, on a décidé de partir, tu vois. On voulait changer, on voulait prendre soin de nous et prendre du temps pour nous. Et donc on est parti à Cape Town en Afrique du Sud, vraiment avec cette envie de couper avec cette vie très intense qui à la fois a été une bénédiction aussi de vivre à Paris, c'était incroyable. Et on est parti en Afrique du Sud pour se faire du bien, tu vois. Et donc à la fois on a découvert une nouvelle langue, on a découvert des gens, mais on a aussi découvert en fait des gens qui en Afrique du Sud à Cape Town, donc c'est le sud de l'Atlantique, et les gens en fait ils prennent des bains froids tous les matins, donc ils démarrent leur journée, ils font du sport, ils font un bain froid, ils vont boire un café. Ils sont entre potes et puis après ils démarrent leur journée comme ça. Et pendant 6 mois, j'ai pris ça tous les jours en fait et j'ai découvert en fait des bénéfices incroyables. J'ai peut-être des prédispositions avec le froid où c'était assez facile pour moi, mais derrière je voyais de suite des effets qui étaient très très puissants, surtout sur mon calme mental, tu vois. J'étais vraiment très serein, très calme dans ma tête et aussi mon corps, je me sentais aussi très fort. Et donc, il y avait vraiment cette énergie, tu vois, des gens qui se rejoignent pour se faire du bien. Et c'était exactement ce que je cherchais. Et donc, voilà, Wim Hof, c'est une méthode qui prend le froid, mais qui a une continuité avec la respiration, aussi avec l'intention dont on place notre mental. Ces trois piliers qui s'entremêlent, tu vois. Et donc, voilà, je suis devenu instructeur en rentrant en France. Et ça a été une exploration à la fois personnelle, parce que je vois la respiration, la façon dont on se parle, l'intention mentale et le froid comme une augmentation des piliers du bien-être. C'est d'autres moyens de se faire du bien. Et donc, je suis allé à fond dans ça quand j'ai fait ma première respiration. Je sais pas si je te l'ai dit, Alexandre, mais je pense que je te l'ai dit à toi, Pierre. Je fais ma première respiration et j'ai appris plein de trucs en kiné, tu vois, en prépa physique et tout. Mais la respiration, pour moi, ça m'a touché en plein cœur. C'était le moyen le plus puissant de toucher au vivant, tu vois, parce que vraiment on se sent en vie en fait quand on fait ses respirations. Et donc j'ai eu cette clarté à me dire ok, il faut que je devienne instructeur et que je partage ça au plus grand nombre. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis parti en Pologne pour devenir instructeur de cette magnifique méthode.
Et justement, est-ce que tu pourrais, on sait que peut-être ce sentiment de respirer, travailler la respiration, ça peut avoir un effet bénéfique sur la gestion du stress. Est-ce qu'il y aurait une ou deux respirations que tu pourrais conseiller aux auditeurs qui peut-être ne font jamais ça et qui pourraient tester assez facilement ? Bien sûr, j'imagine que ce n'est pas pareil que se faire encadrer dans une séance où tu vas être là avec eux, mais est-ce qu'il y a deux types de respirations que tu pourrais donner à nos auditeurs dans des situations peut-être différentes, ou est-ce que globalement, c'est la même respiration qu'il faut travailler pour tout le monde et peu importe la situation.
Ouais, ça c'est exceptionnel. À Paris, en fait, c'est la première fois où je soignais des gens, déjà juste en les faisant respirer, tu vois. Parce qu'il y avait beaucoup stressé et en fait, le diaphragme, tu vois, c'est un muscle qui est vraiment central dans notre corps et qui est central aussi dans notre vie parce qu'il nous permet de respirer. Et donc, avant de devenir instructeur Wim Hof, je commençais déjà à traiter les gens que en les faisant respirer. Genre les deux premières séances, je les touchais pas et juste je les apprenais à respirer. Et donc une première respiration que tout le monde peut faire, c'est juste de fermer les yeux. Là, on peut se faire un 30 secondes si vous voulez. On ferme les yeux et juste on est à l'écoute de notre respiration. On observe si on respire par le nez, si on respire par la bouche, si on a une respiration ample ou plutôt courte. On regarde aussi si ça va vite, si c'est plutôt calme. Et tout doucement, on peut réouvrir les yeux. Et en fait, tous les trois, on a senti qu'il s'est passé un truc. Et on a fait vraiment, là, on l'a fait vite, on l'a fait 26 secondes, quoi. Si vous faites 2 minutes à fermer les yeux, placer votre attention sur votre respiration, ok, j'observe, en fait. Comment je respire, là, maintenant? Et donc, ça nous permet, en fait, de reprendre le contrôle. Et je pense que c'est un super exercice quand voilà, on a envie de se recentrer, d'être présent, ou parfois quand on a un coup de stress, fermer les yeux, observer sa respiration, c'est déjà le premier exercice que je donne, tu vois.
Et un deuxième exercice, si on a envie d'aller chercher un petit peu des volumes respiratoires, est-ce qu'il y a un intérêt justement à aller chercher vraiment une grosse inspiration, couper, faire une grosse expi? C'est souvent quelque chose qu'on conseille et qu'on recommande. Est-ce que toi, t'as ton conseil vis-à-vis de ça?
Après, il y a vraiment plein de façons de respirer. C'est un domaine que j'adore. Et je vois le domaine de la respiration comme le domaine du mouvement, tu vois. On peut marcher, on peut faire un ping-pong, on peut faire de l'escalade, ou on peut aller faire un foot. Tout ça, c'est du mouvement. Et tu vois, ce spectre du mouvement est super large. Et la respiration, c'est pareil, tu vois. Donc, il y a plein de respirations. Vous allez sur YouTube ou vous prenez des applications. Vous pouvez essayer plein de respirations. La première respiration que je vous donne, c'est de fermer les yeux et d'être à l'écoute de votre respiration à l'instant T. La deuxième, ça va être la respiration Wim Hof, parce que c'est vraiment une respiration qui, moi, m'a touché en plein cœur. Et c'est à travers l'application Wim Hof ou des vidéos sur YouTube, vous pouvez être guidé. Et donc, c'est une respiration qui se fait en 3 temps. Il y a un cycle d'hyperventilation. On va faire 30-40 cycles d'hyperventilation. Puis, on va avoir un cycle d'apnée poumon vide. Donc, on finit nos hyperventilations, on souffle et on reste en apnée poumon vide. Puis à un moment, on va avoir besoin d'air. Donc, on va reprendre une inspiration. Et cette fois, on va bloquer en apnée, mais en poumon plein. Et donc, en fait, ces 3 étapes, on va les enchaîner. On va faire hyperventilation, apnée poumon vide, apnée poumon plein. Et on va les enchaîner. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel, parce que ça ouvre la porte à s'écouter vraiment et parfois à sortir de notre mental, parce que on a toujours plein de pensées. On est souvent surchargé d'informations. Et le fait de suivre ce cycle respiratoire, ça peut vous amener à un moment à un état méditatif, où moi j'avais déjà essayé de méditer avant, mais ça a toujours été difficile de fermer les yeux et de penser à rien. Moi j'ai toujours eu du mal, j'arrivais pas à comprendre, et en fait de suivre ce cycle respiratoire t'amène tout doucement, donc t'es actif, tu suis un rythme respiratoire, et d'un coup tu peux aller ailleurs et arriver à un état méditatif ou un état de conscience modifié. Toi, Pierre, tu l'as expérimenté.
Et oui, mais la vraie différence aussi, c'est entre de la respiration abdominale, comme on vient de faire, et par exemple de la cohérence cardiaque. Je pense que les gens connaissent maintenant 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pour monitorer un peu le rythme respiratoire et calmer le système. Ça, c'est du travail que tu peux faire tout seul versus les respirations Wim Hof qui se font en groupe, où il y a quand même cet effet de synergie de groupe, et c'est quand même très particulier de faire des respirations guidées par quelqu'un en groupe versus le faire au calme chez soi. C'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on vient chercher.
Ouais, en fait c'est pas les mêmes modalités, et c'est ce qui est magnifique dans la méthode Wim Hof, c'est que c'est une méthode que tu peux embarquer à la maison, en fait. Donc tu vas vivre une expérience à travers un événement, un atelier ou un week-end, et c'est très expérientiel, tu vois. Donc tu vas vivre des choses à travers cette respiration, tu vas te connecter à toi-même et aussi aux gens qui t'entourent. Tu vas aller dans le froid, tu vas pourquoi pas faire de la méditation et placer ton intention. Tout ça, c'est très expérientiel dans l'atelier, dans les week-ends, mais c'est des méthodes que tu peux embarquer dans ton quotidien pour te faire du bien, tu vois. Et donc faire une respiration Wim Hof sur YouTube, ça n'a pas du tout le même effet, mais ça a un effet de bien-être, de « ok, en fait, je me fais un exercice de respiration, je me fais du bien ». Pareil pour le froid, tu ne vas pas faire un bain glacé tous les jours, mais t'exposer au froid, faire ta douche froide, c'est aussi un moyen de se faire du bien, parce qu'il y a des bénéfices à s'exposer au froid, à faire des respirations, et c'est ça qui est la beauté de Wim Hof. Tu peux vivre, tu peux t'explorer, et tu peux vraiment te découvrir autrement à travers des ateliers et des week-ends. Mais c'est aussi une méthode que tu peux embarquer, mettre dans tes routines et enrichir, en fait, ta quête de bien-être.
Après, tu le considérais comme un pilier de la santé ou plus comme la petite cerise sur le gâteau, de l'optimisation? C'est quoi ta vision vraiment? Pour toi, c'est vraiment un pilier, cette méthode Wim Hof, où il y a quand même des choses beaucoup plus importantes? Tu vois, je pense notamment aux gens peut-être qui sont peut-être moins intéressés par la respiration, le froid. Est-ce que c'est 5-6% de ton, de ton quotidien, de l'efficacité que ça peut avoir, ou est-ce que c'est vraiment pour toi quelque chose qui a vraiment de la valeur et de l'importance?
Je pense que ça a beaucoup d'importance et je le mettrais, tu vois, dans les quatre piliers qui font la santé du mode de vie. Donc il y a le sommeil, la nutrition, l'activité physique et il y a la santé mentale, tu vois. Et donc je pense je mettrais ça dans le pilier de la santé mentale, même s'il y a des bénéfices physiques, physiologiques, à se mettre au froid, à respirer. Moi je vois vraiment l'aspect mental, tu vois. Cette méthode Wim Hof m'a permis d'accéder à la méditation. Donc si tu veux, j'ai exploré, j'avais un bain froid à Paris sur mon balcon, donc tous les jours je me suis mis dans le froid tout l'hiver et c'était magnifique. Mais là, c'est plus le cas. J'ai fait des respirations tous les jours quand je suis devenu instructeur. Tu vois, j'ai vraiment poussé le truc pour voir ce que ça faisait chez moi et pour le partager aux gens. Mais là, actuellement, je fais juste une douche froide. Je fais plus de respiration, mais ça m'a permis d'accéder à la méditation. Tu vois. Et donc, la méditation, j'y arrivais pas avant la méthode Wim Hof. Et là, maintenant, je médite tous les jours depuis 6 mois, je pense. Et donc, ça me donne aussi une cohérence, un recul sur mes émotions. Tu sais qui je suis, enfin vous savez qui je suis, j'ai quand même un feu en moi à la base et parfois j'ai pu être impulsif aussi et je vois que j'ai beaucoup plus de temps face à mes réactions, face à mes émotions, parce que le fait de méditer, ça me donne vraiment une cohérence sur qui je suis, ma santé mentale, tu vois. Donc je placerai ça, oui, sur la, c'est peut-être la cerise, bien sûr que sommeil, nutrition, activité physique, c'est en premier, mais ne pas oublier aussi tout ce qui peut nous faire du bien à notre tête et à qui on est.
Mais encore une fois, ça dépend, non ?
Oui, ça dépend, ouais.
C'est de l'hyper-personnalisation, il faut savoir d'où l'intérêt d'arriver à évaluer ses manques et qu'est-ce qui pourrait être optimisé chez chacun d'entre nous.
Ouais, en plus on a tous nos affinités. Et tu vois, je te dis, si tu me voyais il y a un an, je faisais des respirations tous les jours et là c'est plus le cas. Et donc je pense que qui on est aujourd'hui et qui on sera dans 10 ans, on sera pas la même personne en fait. Et donc on a même des variations d'identité. On est jamais la même personne. Si parfois on le croit, c'est pas vrai, tu vois. Et donc il y a des choses que j'ai adorées. Tu vois, j'ai fait par exemple de la lumière rouge. Pareil, il y a un an, je m'exposais tous les jours à la lumière rouge. C'est plus du tout un truc que je fais. Et donc en fait, c'est ça aussi que je défends, c'est la méthode Wim Hof, la nutrition, l'activité physique, le sommeil. Pour moi, c'est un entraînement et c'est une exploration. Et donc parfois il y a des choses qu'on va aimer, parfois il y a des choses qu'on va adorer, et des fois il y a des choses qu'on va pas du tout kiffer, on va plutôt détester. Et c'est, l'intérêt, c'est pas d'avoir que des succès, parce que même les échecs ils te font avancer. C'est juste le chemin en fait de comment je fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne chez moi en ce moment. Et donc la méthode Wim Hof, je la place dans ça, tu vois, c'est plus un autre moyen d'exploration.
C'est un outil.
C'est un outil, ouais. C'est un très bel outil.
T'accumules les outils de façon à pouvoir piocher dans ce que tu veux utiliser à tel moment de ta vie.
Ouais, et vraiment, ce qui est beau, tu vois, c'est c'est une méthode qui est prouvée scientifiquement sur les inflammations, par exemple. Et moi, Camille, ma femme, en fait, elle a eu une spondylarthrite ankylosante, donc c'est une maladie auto-immune. Quand on te diagnostique ça, c'est terrible. Si elle était pas, si vraiment j'avais pas fait 1000%, je pense que Camille, elle serait toujours malade et elle serait pas en forme. Donc en fait, à 1000%, on a découvert des experts, des médecins fonctionnels qui nous ont aussi ouvert la porte sur une médecine, une santé qui est tournée pour le coup vers la santé. Et tout ce que j'ai appris, ça m'a permis en fait à reprendre le contrôle avec Camille sur sa santé. Donc c'est une maladie auto-immune, inflammatoire. Donc on te dit, c'est toute ta vie, c'est ton système immunitaire qui t'attaque, donc c'est ton corps qui se retourne contre toi. Prends un anti-inflammatoire, si ça marche pas, il y en a 10, tu t'essayes tous les 10. Si ça marche pas, on te met des immunosuppresseurs. Enfin, le discours est terrible. Et heureusement qu'on a eu 1000%. 1000% a vraiment aidé à passer ce cap. Et tout ça pour dire que la méthode Wim Hof, à travers le froid, à travers la façon dont on se parle, à travers nos respirations, c'est aussi comme notre mode de vie, un moyen d'augmenter notre potentiel de santé. Et je pense que le froid, par exemple, a beaucoup aidé Camille à un moment où elle perdait confiance, tu vois. Perdre confiance en ses capacités, il y a une dépression, il y a des douleurs, il y a vraiment, on commence à mal se parler, on perd pied, c'est des douleurs constantes, parfois qui ont été des douleurs à 15 sur 10, tu vois, et les médicaments qui marchent pas, son corps qui est défectueux, on perd espoir. Et donc, en tout cas, ça c'est notre expérience, c'est que le froid a, je pense, entrouvert un espoir, une première parenthèse de non-douleur, comme quoi c'était possible. Et dans la tourmente, on s'accroche à ce qu'on peut. Et donc nous, ça a fonctionné. Donc ça a été notre expérience. Et je pense que ça peut aider d'autres personnes. Et chacun peut trouver un moyen. Mais l'idée, c'est quand on est parfois perdu dans la tourmente des douleurs, trouver de l'espoir, c'est essentiel.
Je pense qu'il y a vraiment un intérêt à explorer ces différents outils. Et je pense qu'il y a une espèce de frustration aussi chez nous comme praticiens, où on est cantonné à uniquement l'activité physique et ou du manuel pour soulager les patients. Et après, typiquement pour elle, la chimie et rien d'autre, quoi, que tu pouvais lui proposer, par exemple. Pas de connaissances tangibles sur la nutrition poussée, quoi mettre en place, qu'est-ce qu'il fallait éviter, plein de clés finalement qui auraient pu l'aider là-dedans, oui. Ou sur le mode de vie aussi.
Après voilà, c'est ça, il n'y a pas que le froid aussi, il n'y a pas eu le changement qu'avec le froid, il y a eu tout, justement, c'est toi.
Une multitude d'outils.
Voilà. Exactement, et c'est souvent, les auditeurs peuvent se dire, ouais,
ça c'est la méthode miracle.
Ouais, voilà, c'est pas du tout ça, c'est toi, tu as eu une démarche, souvent, tu vois, on dit, oui, la longévité, ça a une notion un peu négative parfois. Toi, ça a quand même été poussé par des moments difficiles qui t'ont, si t'as voulu justement les dépasser, à te renseigner, t'éduquer, voir ce qui... Et en fait, ça t'a intéressé, et plus t'as commencé à accumuler des informations, plus ça t'a passionné, et après t'es parti dans ça, ça a été un peu un fil conducteur quand même.
Ouais, c'est fou, parce que 1000%, en fait, c'est le fil rouge, tu vois, et je vous en remercie, c'est incroyable, tu vois. Et en fait... Camille, elle s'est soignée en reprenant le contrôle de notre mode de vie. Et on était déjà parti en Afrique du Sud pour se faire du bien. Donc on mettait déjà des trucs en place, tu vois. Et en fait, c'est souvent ce que je dis, c'est que cette maladie, en fait, c'est souvent une bénédiction, en fait. C'est souvent le corps qui signale une alerte, à nous de l'entendre ou pas, et à nous de convertir l'essai ou pas. Et donc, en fait, si tu veux, cette maladie, ça a été terrible, très très dur, mais ça nous a permis, en fait, de passer le niveau d'après, tu vois. Et donc, on a commencé à passer le niveau d'après de partout. Donc, on a repris le contrôle de notre nutrition alors qu'on pensait déjà l'être, tu vois. Donc, on a poussé le curseur. Pareil sur le sommeil, pareil sur l'activité physique, pareil sur la méthode Wim Hof ou d'autres moyens de se faire du bien. Et donc, en fait, ça nous a poussé à aller chercher, à se connaître encore mieux. Et c'est petit à petit... Je pense que ça, c'est vraiment... voilà, ça s'applique à cette situation, mais à toutes les situations qui sont compliquées. C'est... petit à petit faire les choses, mettre en place des choses qui nous permettent d'aller bien, même si sur le moment c'est des petits bénéfices. En fait, c'est pas à pas qu'on va pouvoir brique par brique qu'on va pouvoir construire des merveilles. Donc c'est vraiment la force du conseil à 1000%, hein. On a eu je sais pas combien d'invités sur 1000%. Le conseil à 1000%, c'est mettez de la fréquence, mettez du volume, soyez disciplinés, rentrez des choses bénéfiques dans vos routines. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Et cette maladie, avec le recul, ça a été très dur, mais ça nous a permis d'avoir le quotidien qu'on a actuellement et les bénéfices avec Camille qui prend zéro traitement, zéro douleur et qui est, vous l'avez vu dernièrement, elle est en forme, elle court, elle pouvait pas marcher, tu vois. Donc là, en 8 mois, on a repris le contrôle. Mais je pense que 100 000%, on n'aurait pas eu les clés, tu vois. Et donc, voilà, 1000%, ça, c'est vraiment une aventure de ouf.
Mais c'est très complexe d'avoir les informations de qualité et de pouvoir avoir déjà les trouver, trier et trouver ce qui peut t'aller. Ça met du temps aussi. Il y a le facteur temps qui joue quand même.
Et ouais.
Ce qu'il faut tester et puis laisser le temps aussi faire son œuvre, parce que ça vient pas comme ça.
Il faut y croire. Et ce que tu dis, c'est important, tu vois, d'avoir les bonnes infos, d'écouter 1000%. On essaye de donner des bonnes infos, de donner la parole à des gens qui en valent le coup et d'essayer de comprendre l'alimentation. Il y a tellement de courants, l'activité physique, il y a tellement de courants que des fois, on se perd. Et je pense que nous, ce qu'on peut en retirer, c'est qu'on a comme un résumé, comme des grandes lignes sur lesquelles on peut se raccrocher. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est le facteur temps, tu vois. Donc c'est à la fois travailler, être curieux, emmagasiner des connaissances pour être sûr que ça va nous faire du bien. Et à partir du moment où tu y crois, tu as juste à continuer à le faire, à attendre un peu. Et puis c'est la clé. Mais la connaissance, la curiosité, c'est peut-être notre plus grande force, hein, et on parle de longévité, mais là actuellement j'ai des mamies exceptionnelles qui ont quasi toutes 100 ans. Et franchement, elles font pas de squat, elles mangent, voilà, elles mangent comme elles mangent. Mais je pense que ce qui relie toutes ces mamies, c'est leur curiosité intellectuelle, tu vois. Et c'est peut-être un truc qu'on parle pas souvent, mais nous, ce podcast, bah, il va nous maintenir dans le temps parce qu'on a le cerveau ultra stimulé, ça nourrit. Et donc de pas oublier aussi de nourrir notre cerveau, de rester curieux, d'apprendre des langues, d'apprendre des trucs, c'est aussi un moyen d'être bien dans notre tête et dans notre peau.
Finalement, ce qui t'a manqué, enfin ce qui lui a manqué à Camille, c'était, il y a eu l'accompagnement sur peut-être l'activité physique, l'accompagnement médical pur avec des consultations de rhumatologue, mais parallèlement, il n'y a pas eu d'accompagnement et d'aide sur le mode de vie. Parce que c'est ça dont tu veux nous parler. Est-ce que tu peux nous parler des différents piliers de cet accompagnement du mode de vie, ce que tu as pu développer avec le DU de micronutrition que tu as fait à Paris?
Ouais, ah, c'est catastrophique. Hein. Les professionnels qu'elle a rencontrés, en fait, le discours, c'est pas du tout le discours de santé, c'est un discours de symptômes, de douleurs, de pansements. Et donc, vraiment, ce mode de vie, j'y crois beaucoup parce que Camille, elle s'est soignée par le mode de vie et ça me donne une puissance. Je veux le crier au plus de gens possible. Je veux impacter le plus de gens possible parce que je suis sûr qu'on a tout dans notre quotidien pour se faire du bien et pour redevenir ou être maître de notre santé. Et donc, c'est vrai que cette alimentation, ce sommeil, cet entraînement, cette activité physique et même cette santé mentale, je vois ça sur le prisme de l'entraînement. Comme je vous ai dit ou comme tu as dit Pierre, y a du temps. Et si on veut avoir une vraie différence au miroir de notre corps, eh ben, c'est pas en faisant deux entraînements qu'on va avoir les tablettes. Mais par contre, si on se laisse le temps de créer des adaptations, eh ben, on va avoir sûrement des formes, des tablettes qui vont arriver. Et donc, c'est pareil pour l'alimentation, c'est pareil pour le sommeil, c'est pareil pour notre santé mentale. De mettre des choses dans nos routines pour être disciplinés et pour créer des adaptations, c'est, je pense, la santé du futur, en fait, notre mode de vie nous permet, clairement, je parlais du livre de Peter Attia, il définit ça en fait. Hein. Il définit en fait les modalités d'apparition des quatre grandes maladies chroniques qui tuent l'homme actuellement. Donc c'est 74% des décès mondiaux qui sont dus au cancer, aux maladies cardio, neurodégénératifs et diabète. Et tout ça, c'est, y a une prévention par notre mode de vie en fait. Et donc c'est là où ça devient très important, c'est qu'on voit que l'humanité ne décède plus d'accidents ou d'infections aiguës comme on pouvait avoir dans le passé, mais en fait c'est des maladies de civilisation. Donc c'est chroniquement dans nos routines, en étant discipliné sur ce qui peut nous tuer, peut aussi augmenter notre santé, tu vois.
C'est aussi la réduction de l'espérance de vie en bonne santé qui pose question.
Ça, c'est un truc de ouf. C'est l'âge de la retraite. Donc en fait, l'espérance de vie en bonne santé, en plus la définition de l'espérance de vie en bonne santé, c'est catastrophique. C'est l'absence d'incapacité ou de maladie. C'est pas t'es à ton plein potentiel, tu vois. Et c'est 64 ans pour les hommes et 66 ans pour les femmes, tu vois. C'est juste pile à l'âge de la retraite. Donc ça veut dire on travaille toute notre vie, on arrive à la retraite, et là, l'espérance de vie en bonne santé s'arrête ? Bah non, en fait. Et donc, en fait,
ça veut dire quoi ? Il faut augmenter l'âge de départ à la retraite ?
Oui. Il est en train de se faire piéger. Il est en train de se faire piéger.
Non, mais tu vois, et en fait, tout est dans le mode de vie. C'est pour ça que je vois ça comme un entraînement. C'est en fait, on a un déclin normal de nos capacités, qu'elles soient intellectuelles, physiques ou émotionnelles, tu vois. C'est la vie, tu vois. La vie va avec la mort, mais ça, c'est OK, tu vois. Mais en fait, le fait de, dès maintenant, s'entraîner à se faire du bien, dès maintenant, augmenter nos capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles, eh ben, ça nous permet en fait, d'avoir un héritage et qui va lisser en fait, ce déclin. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre à une question que Peter Attia pose, c'est quels sont les objectifs que tu te places pour tes 10 dernières années de vie ? Et ça, c'est une question qui m'a bousculé, en fait. Et quand j'ai lu ça, j'ai décidé de partir à Cape Town et de prendre du temps, tu vois, et parce que en fait, c'est fondateur. C'est qu'est-ce que tu veux ? Tu peux décider d'être sous un pain, jouer à la pétanque avec tes potes, t'es juste sur un banc et tu bouges pas. où t'es à quatre pattes en train de faire des puzzles avec tes petits-enfants, ou tu décides d'aller en pleine montagne en camping-car avec tes petits-enfants, tu vois. Peu importe l'objectif, tout est respectable, tu vois. Mais en fonction de l'objectif que t'as envie, eh ben en fait, ça induit en fait un travail et des créations d'adaptation dès maintenant, en fait.
Et tu l'as dit, une des difficultés, c'est justement, je suis parti à Cape Town, j'avais une alimentation que je pensais saine, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne l'était pas forcément ou qu'elle n'était pas optimisée. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour les auditeurs, c'est comment on fait pour justement bilanter, comment je suis dans mon quotidien, est-ce que mon activité physique elle est bonne, est-ce que mon sommeil il est bon, en fait, comment tu fais pour faire un état des lieux de la personne en disant ben, on va travailler plutôt sur ce domaine-là ou ce domaine-là, comment ça se passe concrètement?
Non mais juste intervenir, tous les patients qui me disent non mais franchement moi je mange bien, hein. C'est, il faut aller quand même un peu plus loin que juste ça, juste ce qu'est-ce que ça veut dire bien manger. Je pense qu'on n'a pas vraiment accès à cette information de qu'est-ce qui est suffisant, quelle est la qualité nutritionnelle, la quantité nutritionnelle.
Est-ce que tu pourrais poser 2-3 questions à nos patients et pour savoir si peut, à nos patients, à nos auditeurs, excuse-moi, et qu'ils se rendent compte, qu'ils se rendent compte peut-être que en fait en nous écoutant, ben non, j'arrive pas à répondre à sa question, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des questions justement qu'on peut leur poser et qui peuvent faire
ouais, tu vois, écoutant ce podcast? Donc là, j'ai créé un questionnaire qui me permet d'analyser le mode de vie, tu vois. Et si tu veux, dans ce questionnaire, bah, je vais prendre l'alimentation et je vais détailler toutes les habitudes qui me paraissent intéressantes, tu vois. Donc déjà, qu'est-ce que tu manges? Quels sont tes aliments de base? Donne-moi ton panier de course type, donne-moi ton frigo, tu vois.
Honnêtement, hein.
Ouais, voilà.
On vous connaît.
Et on sait très bien, enfin, je pense que vous avez tous fait cette réflexion d'aller chez des gens, ouvrir le frigo, et c'est comme genre le miroir de la personne, tu sais, on n'a jamais le même frigo, tu vois. Donc déjà, c'est super important de voir cette nutrition sur tout chemin de la nutrition. C'est-à-dire, tu vois, je suis pour la qualité des aliments, et donc, est-ce que tu sais comment tu vas prendre ta viande, ton poisson, tes légumes, est-ce que tu manges bio ou pas, déjà ça va me donner des indications, est-ce que tu manges des produits transformés, oui ou non, tout ça, ça va être déjà un premier jet, tu vois, comment tu t'approvisionnes ton assiette, tu vois, et puis après c'est quel est le temps que tu passes à cuisiner, tu vois, parce que ça c'est vraiment un sujet que je me rends compte avec mes accompagnements, c'est la question de temps est ultra importante. On vit dans une époque où on n'a pas le temps, tu vois, mais
on n'a pas le temps ou on prend pas le temps.
Et alors c'est un peu des deux, tu vois. Par exemple, le fait de cuisiner. Là, si je t'explique moi ce qui m'est arrivé sur la nutrition, quand Camille était pas bien, je suis devenu cuisinier, tu vois. Et j'avais jamais fait ça, mais je suis le king des soupes, des purées, des sauces, de toutes les cuisons, des cuissons à la vapeur, je sais pas quoi, parce que j'ai pris le temps de cuisiner, tu vois. Et donc prendre le temps de cuisiner, il faut soit être capable de se dégager du temps, soit il faut être intelligent, tu vois. Et il y a quelque chose que je peux donner aux auditeurs, c'est vraiment moi je vais cuisiner mes légumes en 2 fois dans la semaine, tu vois. Et donc je vais me mettre des 2 temps de cuisine qui vont me permettre d'avoir 2-3 jours d'avance, tu vois. Et donc je fais du volume où je vais éplucher, cuire des légumes à la vapeur et puis je vais tout mettre ça en tupperware dans le frigo. Et ça me permet de gagner du temps, tu vois. Tout ça pour dire que en fait sur l'alimentation, même moi je découvre encore des trucs sur moi, tu vois, et sur ma nutrition. Mais je veux pas dire que je suis parfait, tu vois, mais ça fait un moment que j'explore. Et quand Camille est tombée malade, eh ben, je pensais bien manger. Et finalement, ben, on a fait un régime de restriction, par exemple, qui nous a poussé à trouver des solutions, tu vois. Et donc, on a cherché à augmenter la densité nutritionnelle. Donc, ça veut dire que on a cherché des produits de qualité. On a uniquement mangé bio, alors qu'avant, on prenait un aliment sur 5 bio et on pensait manger bio. En fait, si vraiment on veut se protéger, et je pense que ça a été abordé souvent sur le podcast, les pesticides, les médicaments et tout ce qui peut être des perturbateurs endocriniens, de manger bio, c'est un garde-fou, c'est un choix. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais en tout cas, c'est un garde-fou qui nous permet de contrôler cette exposition aux polluants. Et quand t'as quelqu'un qui est malade, eh ben tu mets tout en sorte. Et donc en fait, mon questionnaire de l'alimentation, du sommeil et de l'activité physique, je le dégrossis pour voir quel est son niveau de conscience et de connaissance, tu vois. Parce que si je m'adresse à Jocelyne qui mange que des purées faites ultra transformées, ou au contraire je parle avec toi mais tu manges pas encore bio, ou toi Pierre tu manges bio, tu vois, c'est pas le même niveau, c'est pas le même constat. Et ce que je crois, c'est l'ultra personnalisation. Donc quel est le constat, quelle est l'évaluation, quel est ton niveau de connaissance et de conscience, et comment je vais pouvoir t'aider, comment je vais pouvoir être un point d'appui pour que toi, tu viennes augmenter cette prise de conscience et tu commences à créer des petites habitudes qui vont être saines pour ton mode de vie.
L'idée aussi, c'est de faire petit à petit.
Oui.
Tu ne peux pas gravir trop d'étages d'un coup. Mmh. Si la marche est trop haute, tu ne peux pas passer d'un coup à changer tout ton mode de vie. Et ça a un coût aussi.
Bien sûr. Surtout que là, tu parles de bio, mais c'est qu'il y a aussi d'autres paramètres pour les gens qui n'ont peut-être pas le budget, notamment... Je pense qu'on constate toute la même chose, c'est aussi les protéines, le nombre de protéines que prennent les gens. Est-ce que justement tu t'intéresses aussi aux macros? Est-ce que tu vas poser des questions sur ça, connaître un petit peu la composition de l'assiette des gens? Comment tu fais aussi? Parce que c'est, tu vois, typiquement moi j'aurais peut-être du mal à t'expliquer ce que je mange par semaine. J'ai pas forcément d'idée de quantité, je sais que j'ai mes portions, j'essaie d'avoir un petit peu de tout. Mais comment concrètement, qu'est-ce que tu vas poser aux gens, hein? Est-ce que tu poses des questions sur les macronutriments? Est-ce que tu demandes aux gens, est-ce qu'ils mangent des légumes combien de fois par semaine? Tu vois, des questions concrètes que tu vas aborder avec tes patients.
Bien sûr, il y a les aliments types, je pose des questions sur les macros. Je pose donc les macros, c'est protéines, lipides, glucides. Mais il y a des gens qui savent pas définir ça, tu vois. Et donc à partir du moment où la personne ne sait pas définir ça, moi mon rôle, c'est pas lui parler des effets des oméga 3, tu vois, parce que c'est trop loin. Mais par contre, mon rôle, ça va être de m'adapter à son niveau de connaissance pour que je vienne lui donner les informations, parce que moi je vais pas donner des programmes alimentaires en fait, hein. Je vais pas donner des programmes d'activité physique. Donc je propose un questionnaire, je propose aussi un calendrier, tu vois, sur 3 à 7 jours. En fonction de la disposition de la personne, pour avoir, tu vois, les photos de son repas, sa construction d'assiette, et ça va me permettre de voir l'assiette, mais aussi de voir son rythme de sommeil, de voir sa qualité de sel, de voir plein de choses, comment elle s'entraîne, pour vraiment avoir aussi un regard sur ces 3 jours ou une semaine de mode de vie.
Justement, tu parles des sels, c'est aussi peut-être quelque chose que les gens ne savent pas, peut-être pour juger de la santé digestive ou intestinale, je ne sais pas comment tu la qualifies, mais est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des repères, quelqu'un qui peut-être va... C'est quoi? C'est le nombre de fois? C'est la qualité des sels? Qu'est-ce que tu vas regarder? Parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement constater et se rendre compte pour tout le monde, même si ce n'est peut-être pas le moment le plus agréable, mais c'est peut-être un bon repère peut-être pour les auditeurs.
Ah ouais, moi c'est un repère de ouf. Hein. C'est un repère de ouf. Même moi, qui étais plutôt en bonne santé... en fait, j'ai vu que j'ai amélioré la qualité de mes selles. Et en fait, une crotte bien moulée, de bonne couleur, de bonne consistance, en gros, ça, c'est l'objectif. Et soit tu te déplaces plutôt vers des selles molles, la diarrhée, ou plutôt vers de la constipation. Et ça peut donner en fait des problèmes de santé digestive qui sont, je pense, le premier révélateur, tu vois. C'est comme tes urines. Essayer de voir que tu as des urines qui sont jaunes, mais plutôt translucides. C'est de garder ça dans ta journée. On va tous repérer que d'un coup, on a oublié de boire parce qu'on a des urines qui sont très colorées, tu vois. Et donc, de placer son attention sur ça, de savoir que c'est quand même un miroir de notre santé intestinale, je trouve que c'est un truc que tout le monde devrait savoir.
Et est-ce que justement, en fonction de... Désolé d'insister un peu sur cette partie-là, mais sur les selles, est-ce que ça serait un raccourci, j'imagine que je le fais volontairement, mais de dire que j'ai des problèmes un peu de constipation, je vais aller chercher un peu plus de fibres, et au contraire, j'ai des selles un peu plus liquides, je vais mettre autre chose en place. Est-ce qu'il y a une réalité par rapport à ça, ou pas spécialement? C'est vraiment après s'intéresser spécifiquement à l'alimentation de la personne? Ou est-ce qu'il y a quand même des règles un peu communes où tu vas dire, on va plutôt travailler sur ça parce que vos selles, elles sont comme ci, et on va plutôt travailler sur ça parce que vos selles, elles sont comme ça, ou c'est trop facile de dire ça?
Ça dépend.
Oui, j'imagine.
Ah, j'allais le dire.
J'imagine. Mais voilà, est-ce que tu pourrais me donner des pistes, justement?
Mais ça dépend, en fait, parce que y a des personnes qui vont avoir des troubles digestifs et qui vont l'exprimer de différentes manières, tu vois. Il y en a, ils vont faire des diarrhées, d'autres des constipations, et d'autres des alternances de diarrhées et constipations. Et je pense que vraiment la règle, c'est d'avoir une régularité de celles qui sont, on va dire, normales. Et ça va te permettre de voir que tu es sur le bon chemin, tu vois.
Ok, donc en fait, ce qu'il faudrait limite faire, c'est juger l'alimentation, regarder ce que je mange, regarder mes selles. Mais tu vois, comment on pourrait voir Est-ce que c'est mon repas de la veille? Est-ce que c'est mon repas du soir? Est-ce qu'il y a une logique par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une durée de sel? Enfin, je ne sais même pas si tu as l'info, hein, je te pose la question comme ça.
Ouais, j'ai pas l'info, mais je pense que bah, les personnes qui viennent me voir, elles ont des problématiques soit de symptômes, soit des problématiques de performance, tu vois. Et en fonction de ce qu'on va mettre en place dans leur alimentation et dans l'ensemble du mode de vie, eh ben on peut voir une évolution sur les symptômes, mais aussi sur des sur par exemple cette échelle des selles qui va nous permettre d'accompagner cette évolution et de voir qu'on est sur le bon chemin, tu vois. Pareil, on pourrait prendre la fatigue, tu vois. La fatigue, c'est assez flou, mais c'est aussi révélateur de ton énergie, de voir que bah t'as mis en place des choses sur ton sommeil qui te permettent d'être plus en énergie. Moi, par exemple, ouais, je sais pas si on peut embrayer sur le sommeil, mais c'est un sujet que j'adore parce que on sait tous qu'il faut bien dormir, mais on sait pas comment. En fait, comment on fait pour bien dormir? Et donc, on a découvert sur 1000%, on a eu plusieurs invités sur le sommeil, et je trouve que c'est un domaine exceptionnel parce qu'il y a plein de choses à mettre en place qui vont te permettre d'augmenter ta qualité de sommeil. Et ta qualité de sommeil, si tu te souviens, le professeur Philippe, il avait dit, c'est évalué uniquement sur ton énergie du lendemain, en fait. Et donc, il propose un calendrier du sommeil que je propose aussi, qui est, je pense, super important pour objectiver quelle journée j'ai été en forme, les corréler à mes heures de sommeil, mes heures de coucher, mes heures d'endormissement, et repérer en fait quel est le bon rythme pour moi, tu vois.
T'en parles aussi de l'importance de la respiration à un moment au niveau du sommeil. T'as parlé aussi de, enfin ça c'est plus en off quand on échange entre nous, de l'impact que peut avoir le renforcement musculaire aussi sur ta qualité de sommeil. C'est des choses qui sont personnelles bien sûr, mais sur les, ouais, est-ce que t'as un retour d'expérience par rapport à ça?
Ouais, ben moi je suis un explorateur. Et donc moi je regarde tout ce que je mets en place et comment ça fonctionne, tu vois. Et donc je regarde beaucoup, je monitore beaucoup mon sommeil et j'ai vu pas mal d'effets sur le sommeil. Par exemple, de faire de la musculation. Si je fais de la musculation en première partie de journée, je vais vraiment propulser ma zone de sommeil profond. Donc c'est une zone de sommeil où ton corps va se régénérer, va se réparer, que ça soit physiquement ou même cérébralement. Et donc vraiment quand je fais ces séances de musculation ou de force, bah vraiment ça vient mais décupler. Je prends je sais pas 30%, tu vois, c'est monstrueux. Et il y a plein d'interactions qui peuvent être bénéfiques sur le sommeil ou positives. Et par exemple, si je fais la même séance à 19h, je vais pas dormir. Et donc, moi, je suis très exposé au timing de ce que je vais faire, au timing de quand je vais faire mon activité physique, au timing de quand je vais manger. Ça va vraiment bousculer ma qualité de sommeil. Est-ce que je vais bien dormir ou pas? Et donc, voilà, j'ai fait plein de découvertes comme ça. Et une autre découverte que j'ai fait, donc j'ai mis un capteur à glycémie pour voir... pour gérer ma santé métabolique et voir un petit peu comment je réagissais en fonction de mes repas, en fonction de mon mode de vie. Et j'ai eu des vraies découvertes où j'adore les fruits. Et moi, le soir, bah, je mangeais des fruits et une fois, j'ai mangé une mangue. Et en fait, j'ai vu que je dormais dans le sucre, en fait. C'était un truc de fou. La mangue, elle m'a fait piquer, mais c'était un pic de glycémie qui est resté toute la nuit. Et donc, j'ai vu que j'avais des conditions quasi de prédiabète après avec les analyses que j'ai faites. Et donc, ça s'explique en partie et en grande partie que, en fait, moi, si je prends des glucides et des produits sucrés le soir, je vais être très exposé. Alors qu'au contraire, si je prends le même repas le matin... Eh ben moi ça va aller et je vais plutôt lisser ma réaction glycémique, et tout ça c'est dans l'exploration, tu vois. Et je pense que le fait de gérer ma glycémie nocturne, bah d'une ça va être bénéfique pour ma santé maintenant et pour le long terme, mais ça va être aussi bénéfique pour ma qualité de sommeil. C'est clair que si je dors dans le sucre, je dors dans le sucre et ça va pas.
Encore une fois, c'est des données personnelles.
C'est perso, ouais.
C'est de l'exploration. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des outils qui te permettent de recueillir des données. Puisqu'on parlait du sommeil, toi, tu utilises la Garmin. Tu m'as convaincu là-dessus.
Tu l'as au poignet.
Je suis converti, c'est bon. Ouais. Ça donne quand même les phases de sommeil. On avait reçu...
Montre cardio GPS, ouais, qui était spécialisée sur ça.
Il y a une imprécision de l'ordre de 30% sur ces données, donc à prendre avec précaution. Mais encore une fois, ça donne un ordre de grandeur. Il vaut mieux avoir un outil que de rien avoir Et on est,
oui,
et
puis vu que c'est toujours la même marche d'erreur, au final, tu pourras être en évolution sur le temps. Et si globalement c'est positif, ça veut dire ce que tu mets en place a un effet intéressant. Ouais,
c'est cohérent, tu vois. Et en fait, qu'on n'ait pas un outil ultra performant, un outil de la NASA, c'est pas grave en fait. Et c'est sûr qu'il y a une marge de manœuvre, mais c'est un outil qu'on peut avoir à 200, 300 euros. Et ça nous permet de voir nos variations sur le même outil. Même s'il n'est pas très spécifique, ça a beaucoup de sens de voir la variation sur le même outil. Tu vois, par exemple, Camille, elle a eu une bague qui est Ultra Human, avec qui sûrement je vais pouvoir collaborer aussi sur le sommeil. Et en fait, les zones de sommeil profond, paradoxales, les notes que donne la bague sont complètement différentes dans la Garmin. Donc, il ne faut pas comparer en fait deux outils, parce que ça n'a aucun sens. Mais par contre, garder le même outil pendant un moment et voir comment ton sommeil va fluctuer, c'est très intéressant.
On n'a pas de sponsor avec Garmin. Non. Par contre, nous, celle qu'on utilise, c'est la 955, Forerunner 955. Et je crois qu'encore plus bon marché, on dira, il y a la 255, je crois, donc avec Sleep Coach dessus, vous avez toutes les données de sommeil. Donc ça peut être intéressant.
En fait, je rectifie, c'est qu'on n'a pas encore de partenariat avec Garmin.
Ouais.
On les attend, hein, Garmin.
Mais je voulais juste rebondir sur quelque chose. On n'a pas encore des outils de la NASA, mais quand même, je crois que c'était avec Nicolas Haute que tu avais discuté. Et on arrive à voir la variabilité de la fréquence cardiaque sur ces montres, alors qu'auparavant, il leur fallait des outils qui coûtaient très très cher et qui étaient uniquement accessibles à l'élite.
Bon, après, le cardio qu'on avait reçu nous avait dit que c'était pas très fiable quand même sur la montre.
Fiable.
Fiable, pardon.
Oui, mais c'est pareil. En fait, c'est des technologies. Oui. Il y a 5 ans, ça coûtait 10 000 euros. Là, on l'a intégré dans une montre à 300, 400 euros. Et donc, la variabilité de fréquence cardiaque, c'est un super outil qui va nous permettre de voir la fatigue. Et en fait, quand vous êtes à 50 battements par minute, on n'est jamais tout le temps à 50. Mais on va être à 45, à 62. Et en fait, on va avoir la moyenne de nos battements cardiaques. Et plus vous allez avoir de variabilité, plus votre système va être adaptable et plus vous allez être en énergie. Au contraire, quand on est fatigué, eh ben, on peut voir cette variabilité de fréquence cardiaque qui va, au contraire, diminuer. Et on va se rapprocher du 50. On va être plutôt à 49, 52. Et on va rester autour du 50. Et moins on a de variabilité, plus c'est annonciateur de fatigue, que ça soit physique ou psychologique aussi. On peut être stressé émotionnellement et voir qu'on a des marqueurs qui chutent aussi.
Tu l'as dit justement, pour nos auditeurs qui voudraient explorer et personnaliser peut-être leur sommeil, on peut avoir un impact de l'activité physique sur le sommeil selon le placement dans la journée. On peut peut-être aussi avoir un impact de la nutrition sur le sommeil. Quel test justement tu pourrais conseiller à nos auditeurs au niveau des prises alimentaires, peut-être faire des repas riches en glucides le soir ou pas? Est-ce qu'il y a un autre élément qui pourrait avoir un impact? Je pense notamment peut-être à l'alcool aussi. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Mais juste, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs d'explorer par eux-mêmes pour tester un peu leur sommeil s'ils ne veulent pas forcément avoir un accompagnement d'un professionnel?
Ouais, bah, y a beaucoup, beaucoup de choses sur le sommeil. Le timing de l'activité physique et des repas, j'ai vu chez moi et sur les gens que j'accompagne vraiment de gros bénéfices. Plus on va manger tard, plus quand même on repousse l'endormissement. Donc il faut savoir que quand même on a un delta entre 2 et 3 heures. Quand on finit notre repas, notre corps est prêt à digérer et pas à s'endormir. Donc il faut quand même, on peut pas manger le soir et aller se coucher les 10 minutes après. Notre corps est pas conçu pour ça. Donc le timing, ça a été vraiment important pour moi. Et tu veux dire tout ce qui va permettre d'augmenter la qualité de sommeil?
Oui, bien sûr.
Ouais,
ou au contraire, la réduire. Peut-être que certaines ne vont pas tolérer telle chose en mangeant peut-être des glucides le soir. Au contraire, s'ils en mangent, ils vont mieux dormir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir?
Ça dépend encore. Parce que tu vois, c'est vraiment ce que je défends, c'est l'ultra-personnalisation. Si on écoute les règles générales qui peuvent être sur 1000% parfois.
Justement, ma question, c'est quel test, excuse-moi si je me suis mal exprimé, mais quel type de repas dans la semaine ils pourraient faire? Et derrière, se dire, ben là, j'ai fait peut-être le lundi un repas riche en glucides avec peu de protéines, je rate mon sommeil. Tu vois, est-ce qu'il y a différents quand même macros sur lesquels on peut jouer et derrière voir la qualité de mon sommeil?
Pendant 10 jours, je fais ça tous les jours et je vois si, avec un moyen de me monitorer, je vois si ma qualité de sommeil s'améliore ou se détériore. Ça peut aussi faire office d'essai-erreur, tu vois.
Et ouais, mais là, je vais pas vous répondre parce que la qualité de sommeil, elle est tellement multifactorielle que c'est tout ce que je vais mettre en place qui va me permettre d'aller dans une voie. Et je pourrais bien sûr répondre, mais j'aurais faux. Parce que en fait, il suffit que je fasse un choix sur mon alimentation le soir, et en fait, c'est le choix de mon activité physique, ou c'est le choix parce que je fais des méditations, ou c'est le choix parce que je me réveille plus tôt, qui va fonctionner, tu vois. Et donc, ce que je pense, c'est vraiment de cibler une habitude, voir si elle fonctionne, et puis en amener une autre. Mais en fait, ça va être l'ensemble des habitudes, ça va être l'ensemble des changements que tu vas mettre sur tes piliers de vie, alimentation, sommeil, activité physique et santé mentale, qui va te permettre d'augmenter ta qualité de sommeil, mais d'augmenter ta santé globale.
Ok, d'accord.
Quel serait l'objectif ultime, selon toi, si je me monitore là? Qu'est-ce qu'il faudrait que je voie marqué sur mon objet qui analyse mon sommeil? C'est quoi l'objectif?
C'est ce que j'ai sur la montre, hein. C'est d'être le plus régulier possible. Moi, j'essaie d'être entre 80 et 100 quasi tous les soirs.
Ça, c'est des scores que vous donne Garmin.
Oui. Bon, en gros, c'est de 0 à 100. Et moi, j'essaie d'être vraiment dans les 20 derniers pourcents et d'être le plus régulier possible. Et je pense que ça, c'est la clé. Plus on va être régulier, comme je vous disais au début, hein, je vois tout comme un entraînement. Et donc, moi, je m'entraîne à bien dormir. Et donc, j'ai mis plein de choses en place dans ma vie qui ont marché, parfois qui n'ont pas marché. Mais maintenant, je me connais assez bien pour savoir, en fait, est-ce que je vais bien dormir ou pas. Et le fait aussi de trouver cette régularité, c'est que quand on a un trou d'air, par exemple, hier soir, bah voilà, c'était les retrouvailles tous les trois, on s'est régalé, on s'est couché un peu plus tard. La note du sommeil, elle n'est pas terrible, mais ce n'est pas grave parce que bah, le reste du temps, c'est géré. Et surtout, si on regarde les zones de sommeil profond, les zones de sommeil paradoxal, elles sont assez bonnes. Tu vois, j'ai pas dormi 5-6 heures et j'ai quand même la moitié en sommeil profond, sommeil paradoxal. Donc, ce serait mon conseil pour monitorer, c'est essayer de chercher en fonction des outils qu'on a, mais les 3 heures de profond paradoxal qui sont des zones de sommeil qui sont intéressantes pour votre corps.
Et justement, s'il y avait 3 astuces, 3 tests à essayer dans son quotidien, tu dois commencer par un exactement, mais tu vois peut-être qu'il y en a des sensibilités autres. Est-ce que tu pourrais donner 3 ou 4, je ne sais pas si tu as un nombre, mais de choses que je peux mettre dans ma journée pour augmenter justement ma qualité de sommeil?
Ouais.
Il va t'avoir.
Oui, il va m'avoir, je vais lui donner.
Non, je veux juste des choses pratiques.
Je veux
des choses pratiques pour les auditeurs.
Je vais te donner, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu sais, moi, tu me connais, le matin, c'était compliqué. Moi, j'étais éclaté jusqu'à 15h, j'arrivais pas à me réveiller, jamais, même content de se réveiller, tu vois. Et le matin, ça a été une vraie découverte pour moi. Et donc, c'est quand on a fait l'épisode avec professeur Philippe, il proposait en fait de décaler légèrement son réveil du matin. Donc ça, c'est moi au début, ça m'a paru contre-intuitif. En fait, c'est d'augmenter le temps d'éveil. Plus vous allez être réveillé, plus le soir on va être fatigué. Donc il faut déjà comprendre le sommeil, tu vois.
La pression du sommeil.
Et ça, il faut comprendre déjà le sommeil, tu vois. Quand je fais mon questionnaire avec mes patients, eh ben je vais déjà voir est-ce qu'ils comprennent qu'il y a des zones de sommeil profond, paradoxal. Est-ce qu'ils connaissent la pression du sommeil? Est-ce qu'ils connaissent le fonctionnement du système circadien? Donc en fait, de savoir que le temps d'éveil va jouer sur notre sommeil, l'exposition à la lumière va jouer sur notre sommeil, et puis après, on va mettre de l'activité physique. Bon, là, je suis en train de te faire un discours de politicien, je suis en train de te noyer le poisson, mais ce que je te dirais,
c'est des pistes à explorer.
La première chose,
pour les
c'est
gens,
vraiment essayer de juste mettre une demi-heure plus tôt votre réveil et de voir comment vous endormez le soir. Moi, ça a été incroyable. J'ai fait ça une demi-heure, c'était difficile au début, et j'ai vu que le soir, mais j'étais une mâche tombée direct. Et donc, j'ai poussé le curseur jusqu'à 1h. Maintenant, je me réveille à 6h30, mais c'était impossible, tu vois. Et donc ça, c'est le premier truc que je donnerais. Le deuxième truc que je...
Pour les gens quand même qui se lèvent plutôt tard.
Ouais, non.
Pas forcément.
Et non, je dirais en fonction, en fait. En vrai, même si on se lève déjà tôt, bah de déjà se mettre, tu vois, un quart d'heure. Moi, j'ai fait une demi-heure, mais ça peut être juste un quart d'heure, tu vois. Et d'augmenter le temps pour soi aussi le matin, ça, c'est un truc génial. Bon, je m'éparpille un peu, mais j'ai trouvé un épanouissement à vivre le matin qui était, mais le Vincent d'il y a 15 ans, il aurait halluciné en fait. Maintenant, je me régale le matin, je suis de bonne humeur. Pourquoi? parce que bah, je vais profiter de me faire un bon petit-déj. Vous avez vu que moi, le petit-déj, bah, j'aime bien passer ce temps à construire.
Dégommer mon... le petit-déj. Hein,
voilà, je vais dire quand même. Moi, je suis un dégommeur de petit-déj et ça fait partie de ma routine de me faire du bien, à bien manger, à contrôler ce que je mange. Parfois, bah, je peux faire des petites activités le matin ou dans tous les cas, j'ai du temps pour moi, faire du sport pour moi le matin. Et ça me permet aussi de pas être dans le contre-la-montre du temps pour soi. Je m'explique, c'est si tu fais pas quelque chose bénéfique pour toi le matin, tu pars dans ta journée, tu fais les transports, tu travailles, tu arrives le soir, tu es éclaté. Et donc, tu as toujours ce sentiment de « mais en fait, c'est quand pour moi en fait ?» Quand est-ce que j'ai un moment pour moi ?
C'est le soir quand je suis fracassé de la journée et, ouais. Et que les enfants sont couchés.
Et donc une fois sur trois, on va y aller et deux fois sur trois, on va craquer parce qu'on est fatigué. Et donc j'ai trouvé un truc vraiment d'accomplissement personnel, que ce matin devienne moteur dans ma vie où je fais des choses qui sont bénéfiques pour moi. Et ça, c'est vraiment un truc que je vais donner aux gens que j'accompagne et les gens que j'ai autour de moi. Mais pour finir sur le top 3, je dirais l'activité physique. Franchement, l'activité physique, je vais mettre la musculation parce que je pense que la musculation est sous-cotée. Moi, ça me fait exploser mes niveaux de sommeil et je pense que c'est vraiment bénéfique. Et quand tu vois que ton système musculaire, ton système cérébral, en fait, bah, ils sont construits sur le même modèle, c'est-à-dire que c'est des cellules qui vont rester longtemps. Donc, elles vont peu avoir de renouvellement. Et donc, elles ont à peu près le même système de défense, tu vois. Et donc, en fait, tout ce que tu fais pour augmenter ta santé musculaire, eh ben, ça va aussi avoir des bénéfices au niveau cérébraux. Et donc, quand tu vois que tu augmentes tes zones de sommeil profond, eh ben, en fait, quand tu fais du sport, tu augmentes tes zones de sommeil profond, c'est que ton corps, il a besoin de récupérer. Mais pour récupérer, pour cicatriser au niveau musculaire, mais ces zones de sommeil profond, c'est aussi du nettoyage cérébral. Donc, c'est, tu vois, tout ça, c'est lié, c'est vraiment super important. Et tu voulais le top 3 et je vais me lancer. Je vais en choisir un parmi toutes les habitudes qu'on peut faire pour augmenter sa qualité de sommeil. Mais moi, je pense que c'est de manger peu le soir, tu vois. Moi, quelque chose qui marche chez moi et sur les gens que j'accompagne, je vois que ça, c'est vraiment d'arriver à manger assez tôt le soir et de manger peu. Je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique parce que, bah, comme je vous disais, la digestion peut interférer avec notre endormissement et par définition, décaler notre temps d'endormissement, c'est aussi avoir moins de qualité de sommeil.
D'où le gros petit déjeuner le matin.
D'où le gros petit déj le matin, c'est exactement ça et je pars avec ça, tu vois. Et je pars avec ça aussi, mais je suis à fond dès le matin, tu vois. Donc j'arrive au cabinet, j'ai tous les ultra trailers, les mecs sportifs de ouf, les entrepreneurs, ils arrivent, ils sont à 8h au cabinet, ils sont à bloc, tu vois. Et donc moi je me mange la journée et il faut que je sois chaud. Donc c'est vrai que en tout cas j'y crois, tu vois. Donc c'est pour ça que je mets du temps à me faire ce petit déj et je sais que j'ai ce bénéfice là. Je le maîtrise, je sais exactement ce que je mets dans mon assiette. C'est des produits de qualité qui me font du bien. Je pars avec ça dans ma journée et c'est un bagage pour toute la journée.
C'est la première bonne note de la journée.
Ouais. Et se faire du bien dès le matin, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Et justement, tu parles de renforcement musculaire. Bon, t'es bien placé aussi pour en parler vu que t'es prépa physique et kiné. Ça serait quoi justement, parce que tu parles de renfo, mais dans un aspect santé, c'est quoi ta vision justement du mouvement pour souvent à une ère où on est un petit peu dans la performance, certains en endurance, d'autres plus sur des critères un peu esthétiques, dans des sports un peu plus musculation. Pour toi, c'est quoi un corps en bonne santé par le mouvement? C'est quoi? C'est du renfo, c'est du cardio, de la souplesse, enfin, comment on articule tout ça? On a l'impression qu'on pourrait faire du sport toute la journée, on n'arriverait pas à tout faire. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à nos auditeurs?
C'est être clair avec son objectif. Non, mais ça, c'est. On a eu JB Morin, donc on a eu des experts, des préparateurs physiques, des coachs incroyables sur 1000%. Allez tout écouter. Et moi, quand je suis devenu préparateur physique, je pensais que ça allait plus me changer en tant qu'identité de thérapeute ou de professionnel. Et en fait, ça a été plutôt la poursuite de la kiné, tu vois. C'est la kiné plus pour moi, c'est la kiné performance.
Et c'est la suite? Parce que
c'est la suite, ouais.
La rééducation et la réathlétisation du sportif.
Comme tu parlais dans ton podcast, tu vois, on ne peut pas faire une rééducation sans aller sur la performance et de l'activité physique. Et quand j'ai fait ce truc de prépa physique, ce DU de prépa physique, en fait, j'ai appris un langage, tu vois. Et j'ai appris la force et l'endurance. Ils rigolent pas avec ça, en fait. Et nous, ce qu'on appelle force, eux, ils appellent ça, tu vois, on l'a vu sur le profil force-vitesse de JB Morin, mais en fait, quand ils disent qu'ils font de la force max, ils font cette qualité-là de force max, mais ils peuvent après faire de la force puissance, ils peuvent faire de la force vitesse, ils peuvent faire de l'endurance de force, et tout ça, c'est j'ai découvert ce champ de cette hymne à la force, tu vois, qui pour eux est vraiment la qualité première de l'expression de nos qualités physiques, et puis aussi le travail d'endurance. Mais dernièrement, c'est encore Peter Attia qui m'a vraiment marqué. En fait, c'est quelque chose que je pensais et qu'il a mis des mots dessus. Il voit son activité physique par 4 piliers. Il y en a 2 cardio et 2 musculaires. Et le premier, c'est l'endurance fondamentale. C'est le premier pilier, c'est je suis capable de maintenir un effort modéré dans le temps, peu importe la modalité, que ce soit du vélo, de la natation, de la course, de la marche, peu importe. Mais c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est la puissance cardiaque. Donc là, il faut faire monter les tours, il faut faire pousser le cœur. Et ça, on peut le trouver sous forme de HIIT, sous forme des MOM. On peut le faire en courant, on peut le faire à vélo, on peut faire du foot. Peu importe encore la modalité, c'est d'aller chercher cette puissance cardiaque. Et puis après, il y a le pilier de la force. Et donc, Peter Attia, il rigole pas aussi avec la force. C'est que si on veut être en forme dans notre vie, on a besoin d'avoir un exosquelette, une armure, pour durer dans le temps, protéger nos structures, et donc vraiment ce pilier de la force, mais ce pilier de musculation, vraiment s'exposer, aller à la salle et de se rajouter des charges externes. Et le dernier pilier, c'est un pilier de stabilité qui est un peu un fourre-tout entre mobilité, assouplissement, proprioception, on pourrait même mettre la respiration et le gainage. Et donc j'essaye de voir mon activité physique à la semaine ou tous les 15 jours, parce qu'on sait que regarder son activité physique à la semaine, parfois c'est un piège. Donc même si j'ouvre au mois, j'essaye d'être de partout. Je veux que mon entraînement, il soit sur l'endurance fondamentale, sur la puissance cardiaque, sur la stabilité et sur la force. Et des fois, j'ai des curseurs où je vais me chercher de la puissance cardiaque. Tu vois, là, je suis à Montmartre en ce moment, et ben, je me fracasse un peu, et je sais que c'est mon curseur en ce moment. Mais j'ai toujours une stimulation dans les 4 piliers, et ça, je pense que c'est vraiment l'entraînement de la longévité.
Et justement, en termes d'activité, on en parle souvent, tu conseillerais quoi dans un objectif de santé, un minimum de 30 minutes par jour? Est-ce que pour toi, les 10 000 pas, ça a du sens? On entend beaucoup de choses. Je sais que c'est dur, mais qu'est-ce que tu conseillerais justement? C'est quoi ta vision de prendre du temps pour soi et d'avoir une activité physique dans la semaine, idéalement, selon... Je sais que chacun a des contraintes, mais pour toi, le mieux, ça serait quoi en termes de temps? Minimum, ouais. Je parle. Minimum.
Ouais, minimum, c'est une heure, je pense. Une heure, il faut qu'on regarde sa journée et qu'on ait une heure pour soi pour être en mouvement, peu importe le mouvement. On a vu que le spectre du mouvement, il partait du ping-pong à l'escalade à la marche. Et une des prises de conscience quand j'ai mis mon capteur à glycémie, c'est le pouvoir de la marche. J'ai halluciné. Ça m'a lissé la glycémie. Je prenais le même repas, je marchais derrière, mais j'avais pas du tout la même réaction. Et ça, c'est nous anciens.
Et oui, c'est ça, j'allais dire, les anciens qui disent, ouais, ok, ça, on savait déjà que...
Et la marche digestive. Ouais. Et en fait, il y en a beaucoup. C'est d'ailleurs un épisode qu'on va vous proposer bientôt. C'est que faisaient nos anciens? Et on parle pas du paléolithique ou je sais pas quoi. On va parler de nos anciens d'il y a 50 ans ou 100 ans.
Et si d'ailleurs, est-ce qu'il y a du bon sens, hein, finalement?
Et oui.
Et si vous avez des idées, justement, d'invités, de thématiques, des experts sur ça, n'hésitez pas à nous partager, même sur d'autres thématiques. N'hésitez pas à nous en proposer. C'est avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Excusez-moi, ouais, je vous ai interrompu.
Envoyez les 5 étoiles. Enfin, faites-nous péter le projet, là. On se régale. On est trop contents de vous avoir. Franchement, on a des retours incroyables et le projet, c'est aussi un projet d'amitié en fait, et c'est ça qu'on veut vous présenter avec ces épisodes, c'est que pour nous c'est exceptionnel et on vous remercie d'être là.
Et initialement, on devait pas faire ce genre de contenu, hein. On s'était dit qu'on se mettait justement en retrait par rapport à nos invités, ouais. Qu'on n'était pas là pour raconter nos vies. Bon, on a attendu 120 épisodes pour pouvoir faire ça. Mais je pense que ça peut aussi être intéressant de pouvoir vous livrer les connaissances qu'on a pu accumuler au fur et à mesure de ces podcasts, même si finalement aussi c'est à vous d'explorer. C'est ça le message, je pense.
Ouais, et du bon sens, là, le mot est venu. Ça, c'est la clé, en fait.
C'est Anthony Berthoud, ça.
C'est Castronovo aussi qu'on va avoir sur le podcast. Ça a été Kaplan aussi qui nous a parlé de bon sens. Et c'est quelque chose de transversal. Hein. de voir du bon sens, on le sait, à nous de le définir, à nous d'explorer. Et la morale de l'histoire, c'est tout ça. Pour moi, c'est trop épanouissant d'essayer de chercher à me faire du bien, de chercher à faire du bien aux autres. Tout ça, et je pense qu'il y a vraiment une justesse, tu vois, dans cette recherche de notre pleine santé.
Est-ce qu'on n'est pas aussi sur quelque chose qui finit par être compliqué? Tu sais, on a parlé de plein de concepts, on a accumulé plein de choses. Ouais. Tu m'as dit qu'il fallait que je travaille 4 qualités musculaires différentes, que je gère mon sommeil, que je gère ma nutrition. Je sais que tu cuis tes aliments à la vapeur, tu filtres ton eau, tu médites, tu m'as dit de faire des bains froids. Là, franchement, je suis épuisé, moi.
Il faut que tu respires surtout, là, parce
que... Là, j'en peux plus.
Mais c'est super que tu me lances sur ça. C'est que mon mode de vie actuellement n'a rien à voir avec mon changement de vie d'il y a 4 ans. Et donc, en fait, l'urgence, c'est de prendre conscience que notre santé est au centre de notre vie. Et le fait de prendre conscience de ça, c'est vraiment très urgent que... on puisse reprendre le contrôle de notre mode de vie et qu'on puisse aller chercher notre plein potentiel de santé. Mais après, on a le temps. Donc l'urgence, c'est dans la prise de conscience. Mais après, le temps de s'évaluer, de s'explorer et d'essayer de faire des erreurs, de faire des succès, ça, on a le temps. Et c'est pas en un claquement de doigts que vous allez prendre mon mode de vie. Et en plus de ça, il va pas vous convenir. Parce que moi, ça me va maintenant et peut-être que dans 10 ans, ça m'ira pas.
Et est-ce que tu vois pas aussi l'hypersurveillance comme ça, comme un vecteur de stress? Tu sais, c'est un peu anxiogène quand même, quelque part, cette ode à la longévité, à la pleine santé. Tu sais que dans l'alimentation, il y a plein de saloperies. Où est le juste milieu là-dedans?
Et moi, mon rôle, c'est d'explorer et d'être un peu extrême, mais parce que c'est ma mission. C'est ma mission et je pense que je vais être juste dans les conseils que je vais pouvoir donner en fonction de la personne, tu vois. C'est vraiment l'ultra personnalisation qui est première et donc si j'ai en face de moi quelqu'un qui va être plutôt anxiogène par rapport à tout ça, je vais peut-être lui distiller un petit peu moins d'infos. Par contre, quelqu'un qui veut se prêter au jeu, je vais assez vite le sentir, tu vois. Et donc, ça va être aussi mon rôle de m'adapter en fonction de la personne, de son constat et de ses attentes. L'idée, c'est de vraiment se faire du bien. Donc, si je vois que quelqu'un vient face à moi et qu'elle est un peu anxiogène à mettre tout ça et que c'est trop lourd, on va plutôt y aller doucement, essayer de faire de la place, tu vois, d'essayer d'enlever des choses négatives dans son quotidien et puis d'y aller plus doucement. L'idée, c'est de pas vivre la longévité ou la santé du mode de vie comme moi je le vis, mais par contre, c'est d'être un point d'appui pour que les gens aillent chercher leur plein potentiel.
Justement, tu peux en parler de longévité, mais les processus de vieillissement, ça serait quoi justement tes conseils par rapport à ça? Et si juste je peux faire une petite parenthèse, parce qu'on a parlé de force, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi la force? On a eu JB Morin, il dit que pour être quelqu'un de fort, à peu près c'est 1,5 fois son poids de corps pour un squat, pareil en soulevé de terre. Ça peut être des bons repères, parce que moi j'ai quand même cette image aussi, surtout de la génération de nos parents qui ont beaucoup d'appréhension à mettre du poids, des charges lourdes. Est-ce que tu as un message juste avant de partir sur le vieillissement, sur cet aspect-là justement du travail de force?
Je ne sais pas si c'est que pour les hommes, et est-ce que c'est aussi valable pour les femmes? Je pose la question.
Il n'avait pas fait de différence en tout cas.
Mais je pense que c'est assez juste, hein. Nicolas Haute disait ça aussi. Il disait même deux fois le poids de corps sur le soulevé de terre. Moi, ce que je dis, c'est d'abord se créer une armure.
J'étais sûr. L'exosquelette.
L'exosquelette, parce que en fait, s'exposer à des charges lourdes, c'est aller travailler sa force et se rapprocher du spectre de la force max. Mais il faut être prêt à ça. Et le fait de faire de l'hypertrophie, de mettre du volume, on reprend le conseil à 1000%, mais mettre du volume, même mettre de la fréquence et mettre des répétitions, mettre du temps sous tension, tout ça, ça va vous aider à travailler votre structure musculaire, à augmenter vos fibres musculaires, qui vont pouvoir après soutenir des charges lourdes et un travail de force. Mais moi, par exemple, je fais que de l'hypertrophie, en fait. Et parfois, maintenant, ça fait 3 ans, tu vois, que je suis préparateur physique, et j'étais pas préparé physiquement. Donc je me suis préparé moi avant de préparer les gens, tu vois. Et donc j'ai vu que je deviens préparateur physique, j'ai jamais fait de musculation ou d'haltéro, tu vois. Et donc c'est vraiment respecter aussi ce renforcement, commencer doucement, des charges modérées, faites beaucoup de répétitions du même mouvement, c'est assez simple et on a des épisodes encore magnifiques sur l'hypertrophie et la musculation sur 1000% pour comprendre comment vous allez pouvoir créer des adaptations. Et maintenant je m'expose parfois à de la force, mais genre parce que j'ai envie de me claquer un soulevé de terre et je me mets la barre. Il y a Nico qui arrive au cabinet et il hallucine parce que il est 8h30 et je suis en train de soulever 110 kilos et parce que je sais que j'ai déjà créé mon bagage physique, je me suis fait une armure, pas une armure, voilà, je rigole quand je dis ça, mais vraiment mon rôle ça a été de développer ma masse musculaire avant de m'exposer à des charges lourdes.
Okay. Et ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'il y a développement de masse musculaire, mais aussi de qualité tendineuse. On avait discuté avec Valentin Copin que ça allait stimuler la synthèse de collagène au sein du tendon. Mais vous allez aussi stimuler la synthèse, enfin, la, comment dire, la densité osseuse avec ce travail de charge lourde. Donc, finalement, c'est bénéfique pas que pour la structure musculaire, mais c'est tout le système qui va bénéficier de ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de la science sur l'effet hormonal que ça a. On pourrait supposer qu'en tout cas, ce n'est pas négatif. Ça aurait plutôt un effet positif, moi je le pense. Je n'ai pas d'études avérées là-dessus à vous fournir, navré.
Pas de petite encarte. C'est sûr que ça fait du bien dans tous les cas.
Mais donc, ça stimule le système de faire de la haute intensité. Et souvent peut-être que les gens ils sous-estiment ça. Il y en a qui sont trop à faire de la haute intensité que de la basse intensité. Il faut varier les sollicitations.
Il faut varier les sollicitations. Et c'est Sean de Obsessed Strength qui disait le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait. Et ça, c'est JB Morin aussi qui dit exposez-vous d'un coup, vous courez et puis vous avez dans votre sac une corde à élastique et d'un coup, vous faites de la corde à élastique. Ça n'a aucun sens, mais en vrai, ça peut avoir un sens de, ben, en fait, je m'entraîne à faire un ultra-trail, je vais être au 60e kilomètre, je vais me tordre la cheville, je vais avoir une difficulté. Et en fait, l'entraînement, c'est ça. C'est une découverte, c'est une exploration de comment on va réagir à une certaine vitesse, à une certaine charge. Et ça reprend encore le principe de l'entraînement en mode de vie. C'est que ben, s'entraîner, savoir s'entraîner, c'est déjà écouter 1000%. Mais s'explorer en s'entraînant, c'est aussi se découvrir mentalement. En fait, quand tu dis hormonalement, quand on fait une séance de sport, on est bien, basta. Si on est bien, en fait, c'est une décharge hormonale qui fait que notre corps, c'est de la chimie. Tu vois, je reviens sur Wim Hof qui dit You are your own alchemist. C'est qu'en fait, tout ce qu'on fait pour nous faire du bien, ça se déclenche en fait par de la chimie. En fait, tout se transforme en chimie dans notre corps, et donc on devient notre propre alchimiste à créer des hormones de bien-être, à faire du sport, à respirer, à être entre nous, à se faire une cheminée, une côte de bœuf le soir. Tout ça, on est bien, mais c'est aussi de la chimie dans notre propre corps.
Désolé d'avoir dérivé un petit peu sur la force, mais je voulais qu'on revienne sur ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut parler, parce que certains ont des a priori sur ça. Et pour parler, peut-être pour finir, sur la dernière partie, on pourrait évoquer le vieillissement. Comment toi, tu le vois, les causes justement de vieillissement et les erreurs à éviter par rapport à ça?
Moi, le vieillissement, je le prends à bras-le-corps, en fait. Moi, je veux vieillir et je veux bien vieillir. Et je sais que c'est quelque chose qui... je vais pas me combattre, tu vois. Souvent, je vois fight aging ou anti-aging. Et moi, j'en ai marre de l'anti. Je veux du pro-aging. Je veux qu'on soit là pour notre santé. Et donc, j'ai découvert avec mon diplôme de micronutrition, tous les processus de vieillissement. Et j'ai fait mon mémoire sur l'hyperinsulinémie liée au mécanisme de vieillissement. Le niveau d'insuline en fait va diriger notre niveau de santé métabolique, et c'est un peu le curseur de notre santé, en fait, cette santé métabolique. Et plus il va y avoir un dérèglement de ce système, plus on va accentuer tous les processus de vieillissement, qui sont l'inflammation, le stress oxydatif, la glycation et les perturbations d'autophagie. Et ce qui est fou, c'est moi, je fais un diplôme avec professeur Castronovo qui est vraiment un puits de savoir, et avec un recul, c'était le premier à dire que c'était un ignorant Il répétait ça à quasi tous ses cours. Moi, il m'a fasciné parce que c'est un puits sans fond. Vraiment, il a une humilité. C'est très rare les gens de son niveau à dire que c'est lui-même, c'est un ignorant. Et il faut qu'on reste modeste face à la complexité du corps humain, tu vois.
Est-ce que tu peux rappeler le nom de son émission? C'est Nutri Radio avec le professeur Castronovo. Ça s'écrit comme ça, se prononce hein, Castronovo. N O V O à la fin.
C'est Vincenzo qu'on va avoir sur 1000%. Et donc il a fait toute une série de la santé selon Castronovo sur Nutri Radio et
sur Spotify, c'est gratuit.
C'est gratuit.
Mais vous pouvez mettre 5 étoiles pour lui aussi, hein.
Ouais, c'est du lourd et en fait il va t'expliquer en fait toute sa santé et c'est vraiment magnifique. Tout ça pour dire que lui, il voit, il dit, si je le cite dans le texte, il dit la médecine mitochondriale est la mère de toutes les médecines. Et donc c'est un ode à la mitochondrie qui a permis en fait à l'humanité d'avoir des capacités exceptionnelles parce que c'est une bactérie qui s'est en gros fusionnée dans nos cellules et qui a plusieurs fonctions et des fonctions centrales dans notre santé et dans notre santé cellulaire. D'une de centrale énergétique, on définit souvent la mitochondrie comme une centrale énergétique, elle va permettre de métaboliser les lipides et les glucides pour produire de l'ATP qui serait la monnaie énergétique. Donc en fait, toutes nos cellules utilisent le même système énergétique, mais elles n'ont pas la même fonction. Donc tu prends la cellule nerveuse, tu prends la cellule musculaire, la cellule immunitaire, elles ont toutes des mitochondries, mais elles vont utiliser cette énergie pas de la même manière, parce qu'elles n'ont pas la même fonction. Mais par contre, elles ont toutes le même schéma de production d'énergie. Donc ça, déjà, c'est exceptionnel. Et après, il y a aussi, vu que c'est une centrale nucléaire, et ben, comme dans toute centrale, il y a des déchets. Et donc, en fait, c'est le premier pourvoyeur de stress oxydatif, qui est un des piliers du vieillissement. Et donc, d'avoir de bonnes mitochondries va te permettre, d'une, de produire de l'énergie efficacement, de deux, de ne pas surcharger de stress oxydatif tes cellules, et donc d'accentuer le vieillissement. Et de trois aussi, elle va réguler en fait, le système d'autophagie. Donc, en fait, le fait de faire du sport, par exemple.
Définition d'autophagie.
Autophagie, en fait, c'est nos cellules, quand elles sont plus fonctionnelles, en fait, il va avoir un signal où il va avoir une apoptose et une mort cellulaire programmée. Et tout ça est dirigé en fait par des signaux qui sont donnés par la mitochondrie.
Justement, tu parles de l'importance de la mitochondrie. Comment on les couve un peu, comment on les cajole, comment on les travaille, qu'est-ce qu'on fait pour en prendre soin, pour que ce soit en forme, nombreuse.
Du microscopique au pratique.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien? On a déjà fait des épisodes dessus, mais si on pouvait avoir quelques conseils pour nos auditeurs pratiques.
C'était avec Vincent Foulonneau qu'on avait fait un super épisode sur la mitochondrie.
Ouais.
Vous avez parlé de quantitatif et de qualitatif.
D'ailleurs, s'il nous écoute, j'avais parlé de professeur Castronovo sur la mitochondrie et je crois qu'il ne savait pas trop qui c'était. Donc voilà, une petite passe décisive à Vincent. Tout ça pour dire que la mitochondrie, c'est vraiment essentiel, donc ça dirige notre santé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du sport déjà. Et le fait de faire du sport, que ça soit en endurance ou en puissance cardiaque, globalement, ça va permettre à notre corps de repérer les mitochondries dysfonctionnelles. Donc des mitochondries où quand on va faire du HIIT par exemple, on va aller à bloc et on va avoir besoin de mitochondries qui vont produire de l'énergie et qui vont pouvoir accompagner cette activité physique. Quand notre corps est dans ces conditions d'endurance prolongée ou de puissance cardiaque, notre corps va mettre en avant en fait les bonnes mitochondries et donc les cellules qui vont avoir des bonnes mitochondries. Donc elle va pousser en fait à la génération de ces cellules. Donc à la division des bonnes cellules qui ont les bonnes mitochondries. Et au contraire, les mitochondries qui vont être dysfonctionnelles, en fait, il va avoir des signaux d'apoptose et donc ça va permettre de diriger le parc mitochondrial et de favoriser en fait les cellules qui ont de bonnes mitochondries au contraire de celles qui ont des mitochondries dysfonctionnelles.
Pour compléter ta question, tu disais qu'est-ce qu'on peut faire pour les cajoler. Finalement, je crois qu'il résumait ça comme ça, Vincent Foulonneau, c'était de la haute intensité, efforts maximaux, en gros des sprints ou faire du 400 mètres pour plutôt travailler la qualité de la mitochondrie et plutôt des efforts d'endurance et de durée pour travailler plutôt la quantité de ces organites.
Oui, c'est pour ça que j'ai consciemment pas fait la différence en vous disant bah les deux sont bons, parce que tout est bon, tout ce qui nous permet de nous faire du bien globalement, bah ça va venir stimuler nos mitochondries. Un autre accès à cette mitophagie et en tout cas à cette santé mitochondriale, c'est de s'exposer au froid, tu vois. Et donc moi, je me suis exposé au froid toute l'année dernière dans mon bain sur le balcon. Et franchement, j'ai jamais eu ça de ma vie. J'avais une force, qu'elle soit dans mon corps ou même dans ma tête. Il faut pas oublier que bah, nos neurones aussi ont des mitochondries, elles produisent aussi beaucoup d'énergie. Et tu vois, ce froid, c'est aussi un moyen, c'est un stress. Et c'est ça qui est, où on n'a pas parlé pendant ce podcast, c'est l'hormèse, tu vois. C'est comment je vais stimuler mon corps aujourd'hui pour augmenter mes capacités. Et donc, ça va être un stress qui va être bénéfique pour mes mitochondries, mais globalement pour ma santé. Mais comme on a compris que les mitochondries étaient au centre de notre santé, globalement, tout ce qui va nous permettre de nous faire du bien va faire du bien à nos mitochondries. Et donc, l'hormèse, c'est le stress appliqué qui nous permet de créer une adaptation et d'augmenter notre potentiel de santé. Et au contraire, le traumatisme, ça va être la même stimulation avec soit trop de volume ou trop d'intensité. Et je parle du froid comme un entraînement aussi, parce que en fait, s'exposer au froid, c'est souvent la course au plus froid, au plus long. Et en fait, tout est dans la gestion de la charge du froid que je m'applique. Parfois, moi, je vais faire un bain super, super froid, mais je vais le faire très peu longtemps. Ou au contraire, je vais rester longtemps, mais je vais définir aussi quelle charge j'applique à mon corps. Et tout ça, c'est sur tout le mode de vie. On peut voir cette charge d'entraînement sur l'alimentation, sur le sommeil, sur l'activité physique, sur le froid, la respiration de cette manière.
C'est un petit peu comme le stress oxydatif, pardon. On a une image un petit peu négative de celui-là, mais s'il est bien dosé, il permet aussi de progresser. On a eu notamment Fabrice Kuhn qui en parlait. Il dit, c'est sûr que si vous arrêtez, si tout le temps vous essayez de limiter au maximum ce stress, en fait, vous n'allez jamais progresser. Donc, c'est toujours pareil, ce système d'hormèse dont tu parles. Et juste pour revenir à la mitochondrie, on a parlé de l'alimentation, de l'activité physique, excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres conseils aussi que tu peux donner en dehors? J'imagine que le sommeil aura un bon impact, peut-être. L'alimentation, est-ce qu'il y a des choses qui sont prouvées au niveau scientifique sur ça ou c'est vraiment plus l'activité physique?
Tu vois, dans mon accompagnement, on a parlé du coup du questionnaire du mode de vie, de l'analyse autour de ça. Et pour moi, c'est reprendre le contrôle de l'environnement externe de la personne. Mais en fait, j'accède aussi à la santé fonctionnelle où on va pouvoir faire des bilans biologiques, génétiques, qui vont nous permettre en fait d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement interne. Et donc, il y a des biomarqueurs qui vont nous permettre de savoir si la mitochondrie, elle est plutôt fonctionnelle ou pas. Et donc, il va y avoir aussi toute une complémentation qui va pouvoir aider à la santé mitochondriale. Mais encore une fois, ça dépend de chacun et ça va être la personnalisation de chacun.
Et justement, sur ces bilans de santé, qu'est-ce que tu vas aller chercher chez la personne? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des examens qui sont un peu plus poussés ou tu vas chercher des marqueurs? On avait fait notamment un épisode avec Lucie. D'ailleurs, on vous conseille, si c'est un sujet qui vous intéresse, qui rende accessible des tests de santé à un prix, je crois que c'était divisé par deux par rapport au vrai marché. Donc, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, on a un code promotionnel, c'est un de nos partenaires.
Podcast 1000.
Justement, comme en avant, parce que c'est rare d'avoir ces prix-là sur ces tests-là. Toi, c'est quoi justement sa vision des tests et quels tests vraiment tu recommandes pour les gens qui vont travailler avec toi?
Ouais, alors moi, je l'ai fait personnellement. Donc, je me suis fait accompagner par Dr Yoni Asouli, qu'on a reçu aussi sur 1000% et qui est vraiment un king. Et donc, je l'ai appris là dans mon DU de micronutrition. Et donc, en fait, l'idée, c'est que globalement, autour de nous, on a quand même beaucoup de gens qui ont des symptômes, qui font des bilans de santé et que tout est normal. Mais par contre, ils gardent leurs symptômes, ils gardent leurs douleurs, il n'y a pas de solution donnée. Et donc là, c'est l'ouverture sur des biomarqueurs qui sont plus avancés et qui vont permettre de ne pas cibler juste un système, mais d'avoir une vision globale. Et si tu veux, ce que j'ai appris, c'est... je peux te parler que de ce que j'ai appris, tu vois. C'est la, du coup la, le DU micronutrition de Castronovo qui met 7 piliers à analyser à travers des analyses de sang poussées, qui sera autour du système digestif, qui est premier, parce que notre système digestif dirige notre santé, la qualité de nos barrières, c'est essentiel sur notre santé. La barrière intestinale, c'est la barrière qui va être le plus exposée, mais elle n'a pas seulement un rôle de barrière aux pathogènes ou aux organismes extérieurs, mais elle a aussi un rôle d'assimilation. Et donc déjà d'avoir une santé intestinale, un intestin qui nous permet de nous protéger et à la fois d'absorber ce qu'on veut, ce dont on a besoin, c'est essentiel. Donc il voit vraiment ce premier pilier comme le central. Et puis après, bien sûr, la mitochondrie. Je vous ai dit que voilà, il plaçait la médecine mitochondriale comme la mère de toutes les médecines. Et puis après, on enchaîne sur les acides gras. Donc les acides gras, à travers un profil d'acides gras, on va pouvoir définir un peu la proportion de l'ensemble des lipides. Et les lipides, en fait, ça va construire encore une autre barrière, c'est-à-dire nos membranes. Et ça, j'ai adoré. C'est, en fait, il nous a dit que globalement, les membranes, c'est ce qui permet la vie. Parce qu'avant, il y avait une bactérie. Mais dans la bactérie, si on prend la cellule comme un appartement, bah, la bactérie, c'est un studio. Donc, t'as ton frigo, t'as le lit, t'as la salle de bain, t'as les toilettes dans le même univers. Et donc, rien n'est optimisé. Et en fait, la cellule humaine va se décupler à partir du moment où elle a compartimenté. Donc déjà, elle a compartimenté le milieu cellulaire et extracellulaire, donc première compartimentation. Mais elle a aussi des membranes intracellulaires qui vont compartimenter différents organites. Donc la mitochondrie, c'est une centrale nucléaire, mais qui va avoir un environnement qui est très dangereux. Mais le fait qu'elle soit compartimentée, ça va permettre à cette centrale nucléaire d'être vraiment performante, tu vois. Et l'ensemble des organites, l'ensemble des compartiments va permettre en fait d'avoir une fonction bien définie sur chaque localisation des compartiments de la cellule. Et donc là, on arrive dans une belle maison où la salle de bain est bien définie, de la chambre, du salon, de la cuisine, et tout est à sa place. Mais en même temps, on a une cuisine très fonctionnelle, on a une salle de bain super avec le sèche-serviette qu'on adore. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il fait un node aussi aux membranes, et ça, c'est dirigé par notre profil d'acide gras. Après, il y a un autre pilier comme l'immunité et l'inflammation. Donc je vous ai dit, c'est un processus de vieillissement qui est ultra central dans le vieillissement. Et donc, c'est un pilier qui est vraiment très important, parce que derrière nos barrières, on a des soldats qui sont là pour nous défendre. Et si un pathogène passe la barrière, c'est la guerre. Et donc, le fait d'être exposé à beaucoup de pathogènes ou des molécules qui ne devraient pas être là, à cette place-là, à ce moment-là, et bien en fait, on a un système de défense qui est très réactif et qui peut provoquer des maladies auto-immunes comme Camille a pu avoir. Et puis après, voilà, il y a plein de piliers comme ça qu'on va pouvoir évaluer. Il y a l'insuline, la glycémie, il y a le foie, la détoxication, il y a l'ensemble des micronutriments. Et ça, j'adore, parce que je vois les micronutriments comme une terre riche. Et une terre fertile à la santé, tu vois. Et donc, j'imagine votre santé comme un potager. Et je vous demande si vous feriez un potager sur un terrain sec et rocailleux, tu vois. Ou est-ce qu'au contraire, tu choisirais de mettre ton potager dans une terre qui est riche, qui est vivante, qui est pleine de ressources, tu vois. Et donc, je vois ces micronutriments comme des molécules qui nous permettent, qui permettent à cette santé de s'explorer. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait ce DU, parce que je me tourne enfin vers la santé à travers le mode de vie pour amener un environnement sain, et en même temps cette mesure de la micronutrition qui me permet d'avoir une analyse plus précise de la santé interne de la personne.
Tu parles justement d'inflammation, est-ce qu'il y a des marqueurs spécifiques, parce que c'est vrai que peut-être certains vont me demander ça pour aller faire une analyse. Et est-ce que voilà, il y a peut-être un peu des choses que tu pourrais conseiller, et toi peut-être même au niveau de l'insuline, est-ce qu'il y a aussi des marqueurs spécifiques ou des tests à faire qu'on peut faire en laboratoire si on ne peut pas passer par Lucie ou un autre organisme?
Ouais, mais ça c'est tout le sens de ces mesures qui sont un peu plus avancées que ce qu'on nous donne habituellement. C'est que en fait la CRP, en fait ça va être une molécule inflammatoire qui va pouvoir être détectée sur les bilans sanguins, mais c'est une molécule qui va apparaître sur des inflammations aiguës. Et donc en fait, faut définir en fait l'inflammation aiguë due à une infection ou due à quelque chose qui ne va pas, d'une inflammation chronique. Qui est en fait un petit feu, des petites braises qui restent là, mais on n'est pas là sur un brasier. Et donc en fait, généralement sur les prises de sang habituelles, on a un dosage de la CRP qui peut nous définir une inflammation aiguë. Mais en fait, le vrai marqueur pour voir s'il y a une inflammation de bas grade, une inflammation qui est là, latente, qui... C'est les braises. Et les braises, en fait, elles sont dues en fait, à un stress oxydatif qui est important parce que en fait, nos soldats utilisent le stress oxydatif pour se protéger. Et donc, en fait, c'est ça, ça entretient ces braises. Et donc, au lieu d'utiliser la CRP, on va utiliser la CRP ultra-sensible qui est du coup pas remboursée, mais qui va nous permettre d'avoir des dosages plus précis, en tout cas plus faibles de la CRP et qui va pouvoir mettre en évidence cette inflammation de bas grade.
Je pense que c'est... Et avec l'outil Lucie, finalement, vous avez un médecin qui vous analyse ces données, qui vous permet aussi d'en savoir un peu plus.
Et sur la résistance à l'insuline, justement, est-ce qu'il y a aussi un marqueur? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup de ça ces derniers temps et qui inquiète certaines personnes. Est-ce qu'il y a un marqueur spécifique aussi associé?
Ouais. Et ça, encore, c'est vraiment un sujet passionnant parce que, en fait, tous les piliers que je vous ai donnés, il y a un ensemble de biomarqueurs qui vont nous permettre de définir la santé de ce pilier et pourquoi pas de mettre en évidence des carences et de pouvoir augmenter ce potentiel de santé. Tu vois. Par exemple, tu me parles de résistance à l'insuline, mais généralement, on va doser la glycémie à jeun et pourquoi pas l'hémoglobine glyquée qui va nous donner le delta de notre glycémie à 3 mois. Mais on n'a pas le testomat, on dose rarement l'insuline à jeun. Et en fait, là, mon mémoire, j'ai fait ça sur l'hyperinsulinémie et les mécanismes du vieillissement. Et on voit que notre résistance à l'insuline, elle arrive après des niveaux d'insuline qui sont élevés, en fait. Et donc, c'est notre dérèglement, c'est notre exposition à une alimentation ultra transformée, très sucrée. C'est aussi notre stress qui va augmenter notre glycémie. C'est aussi... notre manque de sommeil, et on voit encore que notre mode de vie est central, en fait, hein. C'est pas juste parce que je mange du sucre que je vais perturber ma glycémie, mais en fait c'est ces perturbations répétées de la glycémie qui va faire que notre insuline, qui est une hormone de stockage, qui voit un ensemble d'énergie de sucre qui arrive dans notre sang et qui va pousser à stocker au maximum. Et en fait, le fait de répéter ces variations de glycémie, ça va en fait user ce système à l'insuline, et donc au lieu d'être réactif, cette insuline, elle va plus marcher par pic, mais on va garder des niveaux élevés d'insuline, et donc cette hyperinsulinémie va venir surcharger les récepteurs à l'insuline de nos cellules, créer une résistance à l'insuline, et puis ça s'enchaîne comme ça, et si on n'intervient pas, on va jusqu'au diabète, qui est clairement la perturbation de notre santé métabolique, qui est le terrain propice à l'apparition de toutes les maladies chroniques, le cancer, les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives.
Et sur les micros, justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui... il y a justement des micronutriments que tu vas chercher un petit peu plus que d'autres ou pas spécialement?
Oui, alors... Est-ce
tes préférés?
Est-ce qu'il faut que je me positionne? Voilà.
Pas forcément te positionner, mais on va dire certains
top
qui... certains qui sont essentiels. Enfin, pas essentiels, mais que voilà, tu vas regarder dans un premier temps, tu vas te dire, bon là, est-ce que ça, c'est bon, ok, et après, je vais passer dans un second temps aux autres, ou est-ce que vraiment, tous ont un sens et tous ont une utilité? Tu peux facilement me répondre oui, j'imagine, voilà, est-ce que tu as quand même un top 3, top 4, et selon peut-être aussi le sexe de la personne, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, certaines carences qui peuvent revenir régulièrement?
Moi, je défends l'ultra-personnalisation, et donc pour moi, ça n'a que du sens, le fait de faire une analyse complète, de mettre en évidence des carences, des déficits, pour être précis dans mon accompagnement. Et en fait, cette complémentation un peu à l'aveugle, je pourrais te la donner, et je vais te la donner pour te faire plaisir, mais globalement, ce que je pense, c'est uniquement cette ultra-personnalisation qui va nous permettre d'être efficace dans la complémentation. Et je te donne un exemple, c'est par exemple, on parle beaucoup du magnésium, on va parler des oméga 3, on va parler de vitamine D, zinc, tout ça, ça revient souvent. Mais en fait, si on ne fait pas cette analyse des 7 piliers de notre santé, et si le pilier fondateur, qui est notre système digestif, si on voit que notre paroi intestinale, si on voit que notre microbiote est dysbiotique, si on voit que ce n'est pas fonctionnel, en fait, on a déjà notre première barrière qui ne va pas être capable d'assimiler notre complémentation. Et donc, même si on fait l'effort de bien manger, on fait l'effort d'avoir de la qualité dans ce qu'on mange, de réfléchir à comment on cuisine, comment on conserve nos aliments, enfin bref, comment on essaye d'augmenter notre qualité de nutrition, si en plus on essaie de se complémenter, Mais si on n'a pas de santé intestinale, ben en fait, c'est juste une pièce jetée dans l'eau, parce que du coup, ça n'a pas de sens, en fait. On ne va pas être capable d'avoir l'ensemble des bénéfices d'une augmentation de la qualité de notre nutrition et de la complémentation.
Hey, je suis pas forcément tout à fait d'accord là-dessus, tu vois. Je pense que...
Allez, let's go.
Non, mais l'idée, c'est qui peut le plus, peut le moins, tu vois. C'est sûr que si tu te supplémentes pas du tout, en hiver, tu prends même pas de vitamine D, comment tu vas avoir un système qui fonctionne? Il y a quand même peut-être certaines choses qu'on peut faire à l'aveugle. Par contre, je suis d'accord avec toi que d'avaler 35 compléments alimentaires par jour, ça fait pas du tout sens.
Surtout si tu dors pas. Enfin, après, si tu as des carences, mais que derrière, oui, tu changes pas aussi ton mode de vie. Là, par contre, ça n'a pas trop de sens. Après, ça peut avoir peut-être un petit plus, mais il vaut mieux déjà travailler ses piliers, se mettre en bonne santé et après chercher la complémentation, peut-être.
Mettre de l'argent dans de la vraie nourriture. Et par contre, je suis d'accord. Mettre plutôt de l'argent dans de la vraie nourriture de qualité et après penser supplémentation plutôt que de combler une mauvaise alimentation par de la supplémentation.
Et tu vois, c'est ça ma mission. Ma mission, c'est de connecter ça, tu vois. C'est à la fois d'aller taper dans le mode de vie. Quand je dis taper, c'est de juste essayer de comprendre quel est le constat du mode de vie de la personne, quels sont ses objectifs, et de l'aider à avoir un environnement sain. Et puis après, pour moi, il faut vraiment confronter à des analyses importantes, parce que la seule façon de voir l'évolution, c'est oui, je vais être mieux dans mon corps, je vais être plus en énergie, je vais avoir moins de fluctuations mentales, je vais avoir moins de problèmes de peau. Tout ça, c'est les symptômes, bien sûr, et ils vont nous permettre de voir la progression. Mais en fait, cette mesure, elle nous permet aussi de voir l'évolution de nos piliers de santé.
C'est le marqueur.
C'est le marqueur, et ça, je suis trop content d'avoir ça, parce que c'est la première fois que je vais pouvoir accéder à ça, et en tout cas à une interprétation. On parlait de Lucie, et donc Lucie, c'est une startup qui vous amène en fait des bilans de biomarqueurs globalement à la moitié du prix, et nous on y croit à fond. C'est pour ça que c'est nos partenaires, et je pense que je vais travailler avec eux, parce que en fait ça me permet d'accéder à des bilans deux fois moins cher pour les gens que je vais accompagner. Et donc je pense que c'est vraiment une vraie opportunité, parce qu'ils rendent accessibles ces biomarqueurs. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est l'interprétation, c'est l'accompagnement. Moi qui ai fait de la médecine fonctionnelle, je viens proposer un autre type d'accompagnement, parce que je veux coacher. Je veux être un point d'appui pour la personne, pour qu'elle me pose des questions, qu'elle voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et qu'elle puisse, en même temps de sa complémentation et des habitudes qu'elle met dans son mode de vie, qu'elle soit capable de me poser des questions pour qu'elle enrichisse sa prise de conscience. Pourquoi pas lui donner des connaissances pour qu'elle vienne encore enrichir tout ça, et qu'elle augmente son potentiel de santé, et qu'elle devienne autonome dans cette exploration.
Bon, est-ce que tu as une question encore, le Pierrot? Je pense qu'on a été quand même très complet sur tous les différents mécanismes, tous les piliers, le bilan. Est-ce que toi aussi, peut-être, tu aurais un mot pour un conseil pour nos auditeurs?
Le conseil à 1000%.
Ah, le conseil à 1000%, je vais le chercher. Du coup, on n'a pas parlé de santé mentale, et quelque chose qui, moi, m'a vraiment profondément touché, et je fais la dédicace à Laure, si tu me regardes, c'est j'ai fait la thérapie avec une psychologue. Et en fait, je l'ai fait dans ce désir d'aller bien, de me sentir bien dans ma tête. Et avant cette thérapie, je vous aurais pas dit que j'avais des problèmes, quoi. Tu vois, je t'aurais dit je suis en bonne santé ou je vais bien. Et en fait, j'ai découvert en fait que j'avais vécu des traumatismes. On a parlé du cancer, mais j'ai d'autres casseroles aussi dans ma vie. On a tous des traumatismes, et ça a été vraiment libérateur dans ce que je suis actuellement, parce que ça a été une pierre, en tout cas, qui m'a permis d'aller travailler des choses qui ont été compliquées. Et je vous en ai parlé, j'ai exprimé les bénéfices, et j'ai trouvé que ça a été très moteur. C'était pas la séance où je me disais waouh, c'est incroyable ce qui m'est arrivé, j'ai vraiment eu des découvertes de ouf.
Pas de révélation, alors?
Non, pas de révélation, mais par contre vraiment une évolution, tu vois. C'était moteur dans ma vie, dans mon quotidien, et donc voilà, j'invite tout le monde à, avant de péter un câble, ou si c'est trop tard, bon, d'aller voir un psy, mais de le faire aussi en prévention, de se libérer de ces traumatismes. Moi, j'ai envie de vous dire, je vais être père un jour, et je l'ai fait aussi pour moi, pour me faire du bien à moi. Et je l'ai fait aussi pour me libérer du bagage émotionnel qu'on peut transmettre à nos enfants. Et donc voilà, dans cette démarche, dans cette projection de cette future parentalité, j'avais aussi envie de faire en tout cas cette démarche pour donner une transmission de pleine santé à mes enfants.
Bon, on finira sur cette belle note. Et oui, aussi sur un 5 étoiles aussi, n'hésitez pas à les mettre, un petit commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des retours, des questions.
Parce qu'on a reçu Docteur Mouton, alors ça c'est aussi 1000%, on va finir quand même par ça, c'est que 1000% c'est un projet de ouf, parce qu'on rencontre des gens exceptionnels, et Docteur Mouton en fait partie. Je pense à Gimberto, je pense à Bertou, j'en oublie plein, et franchement je suis désolé parce que franchement, on vous aime à fond sur 1000%, et ce qu'on a pu apprendre, les manger selon son génotype de Docteur Mouton, c'est 5 gènes qui te prédisposent à assimiler tes glucides, et donc
c'est la personnalisation.
C'est la personnalisation à partir de son génome, et en tout cas, on vous invite à regarder cet épisode, c'est vraiment exceptionnel, un puits de savoir.
Mais c'est la réponse aussi à beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut que je sois végétarien? Est-ce qu'il faut que je sois carnivore? Qui a raison dans tout ce monde? Parce qu'il y a quand même beaucoup de débats là-dessus. Alors, est-ce qu'il a la réponse finale? Ça a l'air quand même d'avoir des arguments assez solides sur ce qu'il avance. Et il avance aussi.
C'est le début.
La personnalisation et de l'individualité. À chaque fois, c'est frustrant de vous dire ça dépend. Et donc, pour répondre à la question d'Alexandre, les tests génétiques sont uniquement prescrits par des médecins dans des centres spécialisés, et je pense pas que ce soit possible en France.
Non. Sauf s'il y a une vraie pathologie ou derrière, peut-être.
Mais encore une fois,
juste pour les suspicions d'Alzheimer, aller regarder l'épisode pour les différents tests là-dessus. Ouais.
En tout cas, c'est un outil qui peut être intéressant. On a vu que notre mode de vie, c'est vraiment un monde où on peut explorer notre bien-être, qu'il soit physique, cognitif ou émotionnel. Et en tout cas, cette exploration, elle est magnifique. Le mot de fin que je voudrais donner, c'est qu'on est, tous différents, mais on est aussi tous différents soi-même. Il faut aussi être capable d'accepter en fait parfois des fatigues, parfois des variations d'humeur, d'énergie. On n'est jamais la même personne. On a tous des moments qui sont plus difficiles, des moments où on est mieux. Donc voilà, il faut être capable d'être bienveillant vers soi. Et cette exploration, elle vous permet de vous faire du bien. N'oubliez pas qu'il y a ce bon sens. Le fait de se faire du bien, c'est exceptionnel. Et puis voilà.
Étape par étape.
Tranquille. Ouais,
progressif. Merci beaucoup pour cet épisode.
Merci Vincent.
Il est à 1000% ou pas, Vincent?
Ouais, on va le tamponner. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés, et à très vite pour un nouvel épisode.
Ciao.
Ciao.